C'est José Coves que l'on retrouve tout de suite pour les courses et c'est du côté de Maison Lafitte que ça se passe aujourd'hui. Bonjour José.
Bonjour Marion. Cet après-midi à Maison Lafitte, 16% sont au départ de la troisième course à handicap disputée sur 2500 mètres. Le terrain sera bon. Tout de suite mes 5 préférés. D'abord le 2 à cœur ouvert. Ce cœur vaillant est entraîné par Henri-Alex Pantal qui depuis le début de la saison surfe sur les victoires. Deux raisons pour y croire vraiment. Le 4 à Lola est sur son meilleur parcours et la voilà beaucoup plus affûtée, prête à renouer avec la victoire. Puis le 3, Okiel d'émeute, c'est le compagnon d'entraînement de Alola. Il s'est déjà imposé quand même à ce niveau et logiquement sa place est dans les 5 premiers. Même appréciation pour le numéro 9, Special Request, parce qu'il en trouve sa vraie distance. Dès lors, il doit brillamment se réhabiliter. Quant à la récente 3e place d'Assa Gaïa, le numéro 13 dans le quintet du 11 mars, la course référence, elle autorise tous les espoirs. Il faut choisir aussi le 7 Funky Mary. Avec Christophe Soumillon, la cravache d'or, c'est un couple moteur très performant. Puis le numéro 1, Sage Piller, cet Allemand, sur ce qu'il a fait de mieux, peut d'emblée se placer. Et enfin le 10, My Sweet Lord. C'est un Espagnol et son retour gagnant dans le Sud-Ouest prouve qu'il est dans une forme très avancée. Attention à lui. Voici donc mon ticket pour cette troisième course cet après-midi à Maison Lafitte vers 13h50. D'abord le 2, le 4, le 3. Le 9 et le 13, puis le 7, l'As et le 10.
Les pronostics hippiques signés José Coves, merci. Et à 5h44 sur Europe 1, merci à vous de réagir à l'actualité.
Europe 1, 10h30, midi 30, les pieds
dans le plat, Cyril Hanouna.
Bonjour à tous, il est 10h32, les pieds dans le plat démarrent comme tous les jours sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 10h30, on est très heureux d'être avec vous, vraiment. Il y a Pierre Belmar qui est là.
Merci Pierrot. Bonjour monsieur, très heureux de vous voir.
Pierre, il y aura bien sûr une histoire à 11h30.
Oui.
Comment ça s'appelle ?
Des noces barbares.
Ah bah c'est un film ça ?
Oui, presque.
Ah d'accord, mais vous allez résumer le film ?
Mais il n'y a pas cette scène-là dans le film, je vous le dis tout de suite.
Merci, bah, c'est important de le signaler. Elle est en veste de jogging, vous pouvez la voir sur Europe 1. C'est une veste de blazer, mais de jogging. Oui, mais ça existe apparemment. C'est Valérie Benaïm.
Bonjour tout le monde, bonjour. C'est une petite veste gris clair, très simple.
Merci.
Je vous en prie.
Encore une phrase très intéressante, merci Valérie. Jean-Luc Lemoyne est avec
nous. Bonjour à tous.
Merci Jean-Luc.
Mais de quoi ?
D'être là, tout simplement.
D'exister.
Ouais. Ne me remerciez pas, car chaque jour, j'ai l'impression que c'est à moi que vous faites un cadeau.
Oh là là, les deux.
Et Jean-Luc Lemoyne, qui est dans une forme olympique aujourd'hui, vu la victoire du Paris Saint-Germain hier, c'est un...
Allez, Paris !
Fidèle supporter. Calmez-vous, moi je suis pour le sport, je suis pour toutes les... franchement.
Et
le
sport, et
le sport, on est sorti grandi.
Mais oui, bravo. Et vous n'êtes pas chauvin.
Bah non, mais j'aime tout comme moi, j'aime autant le PSG que l'OM et Guingamp.
Mais c'est pas la question, je vous demande si vous êtes content de la victoire du PSG hier.
Mais non, mais alors, bah, quoi ça,
c'est comme si je vous dis. Non, mais est-ce que vous aimez Valérie Benaïm? Je fais bah oui, j'aime aussi
Mais Chelsea, c'est pas en France.
Mais pas du tout.
Ah, c'est pas en France, Chelsea?
Non, c'est pas dans le Poitou.
Ah, d'accord, très bien, je croyais que c'était Chelsea dans le Poitou, moi. Et Franck Ferrand est avec nous aujourd'hui. Franck Ferrand, merci d'être là, Franck.
Bonjour à tous. Ça va être une émission historique aujourd'hui.
Ah oui, bah j'espère. Je rassure les fans de Franck. On vous retrouvera aussi dans Au cœur de l'histoire sur Europe 1 à 14h pour une spéciale Gandhi depuis le salon des seniors à la porte
avec
de Versailles.
Avec un scoop, hein, un scoop énorme, mais rien à voir avec ceux de ce matin.
Quoi, il y a un scoop sur Gandhi
là? Ah oui, là je pense qu'on peut dire. C'est Gilbert Sinoué qui vient d'écrire un livre incroyable où il raconte la jeunesse de Gandhi et notamment une relation homosexuelle qu'il a entretenue pendant des années. Donc c'est assez étonnant.
Eh ben, on va en apprendre de belles alors cet après-midi. Merci Franck Ferrand en tout cas d'être avec nous. Vous restez avec nous toute l'émission. Il y a François Valéry qui viendra nous voir à partir de 11h. Il viendra nous parler de son nouvel album dont tout le monde parle, hein, qui sort lundi prochain, c'est Je suis venu te dire. Et puis il y aura le qui peut battre Jean-Luc Lemoyne aujourd'hui, il y aura 300 euros à gagner. Mais pour le moment, on démarre avec l'info du jour des pieds dans le plat.
Europe 1, les pieds dans le plat. L'info du jour.
Ce matin, pour l'info du jour, nous allons parler d'une entité qui fait peur, mais aussi qui fascine. Non, je ne parle pas de Valérie Benaïm, mais de la mafia.
Voilà.
Alors, on ne va pas parler de la mafia italienne, ni des triades chinoises, mais des yakuza japonais. Car ce n'est pas une plaisanterie, mais le principal syndicat du crime japonais a désormais son site web.
C'est quand même incroyable. Fou. Alors pour quelle raison ? Comme toutes les entreprises, la mafia japonaise connaît la crise et peine à recruter de nouveaux gangsters. Non mais c'est une histoire incroyable. Alors elle a décidé de se moderniser et de changer son image en s'exposant sur Internet. Alors vous allez me dire, pourquoi les autorités nippones laissent faire ça ?
Mais pourquoi ?
Merci Jean-Luc Lemoine. Eh bien, à la différence des autres mafias, le clan et les clans yakuza sont légaux. Oui. Ce sont leurs activités criminelles comme le trafic de drogue et les assassinats qui ne le sont pas. C'est-à-dire, on peut être un yakuza.
Ils peuvent avoir pignon sur rue.
Ouais, c'est ça, mais
ça dépend de ce qu'on fait. En fait.
Exactement. Voilà.
C'est comme la mafia, en fait. La mafia, c'est autorisé si c'est gentil.
C'est ça.
Ah, d'accord. Non, mais, ça me paraît logique.
Alors, on trouve quoi sur le site ? Des photos des chefs de yakuza qui posent en kimono. Quand même, il y a des photos, hein, des gars.
Mais en fait, c'est un site érotique de yakuza. Parce qu'en kimono, c'est quoi ? Des kimonos de satin comme ça ?
Ouais, c'est magnifique.
Oh, j'adore.
Je sais que ça vous excite. Des vidéos bon enfant de mafieux qui écrasent du riz gluant pendant un festival de Nouvel An. On trouve des articles sur les Yamaguchi Boys, ces jeunes criminels qui ont participé aux travaux de déblayage après le tsunami.
Oui, ils redorent leur blason.
Voilà,
quoi.
C'est ça, ouais. Exactement. Donc c'est une simple association de bénévoles qui travaillent dans le social. Quand on regarde le site internet, Pierre Velmar, est-ce que vous le saviez ça ?
Pas du tout.
Est-ce que ça vous étonne ?
Ça m'étonne un peu, oui, c'est vrai. Mais enfin, plus rien ne m'étonne maintenant parce qu'on voit tellement n'importe quoi sur le net que finalement, pourquoi pas ?
Alors, comment faire si vous voulez devenir un yakuza ? Peut-être qu'il y en a qui veulent devenir yakuza autour de la table, peut-être Franck Ferrand.
Oui, pourquoi pas ? Moi, j'aime tout ce qui est japonais, vous savez, c'est l'Empire des signes là-bas. Mais quand même, moi, ce qui me paraît plus étonnant dans cette affaire, c'est qu'on parle de la visibilité des yakuza sur ce site, etc. Oui. Ce qu'on ne dit pas, c'est à quel point Internet, pour toutes les mafias du monde et pas seulement pour les yakuza, est fondamental, en fait.
C'est ça.
C'est-à-dire que Internet a modifié complètement l'organisation du crime à travers le monde et qu'aujourd'hui, c'est comme si on avait offert un instrument de haute précision à tous les criminels de la planète.
Oui, Jean-Luc.
Non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas de Franck Ferrand autour de cette table. Il est beaucoup trop intelligent. Il a su que yakuza, au pluriel, c'est des yakuzi.
Je ne savais pas. Moi, je savais pas que c'est un yakuza, des jacuzzi.
Des jacuzzi. C'est ça. Ça n'a rien à voir, Franck.
Les deux, là. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non, mais cela dit, il faut savoir que là, maintenant, il y a un site internet, mais il y avait déjà la presse papier. Ils avaient déjà.
Ils ont des journaux.
Des journaux, les yakuza.
Alors, sachez qu'en 24 heures, déjà 165 000 personnes sont allées jeter un œil sur le site. Alors, est-ce que vous trouvez normal que des organisations criminelle, et pignon sur rue, Pierre Velmar, c'est pas possible ça, vous qui êtes quand même spécialiste du crime.
Oui, bah, ça me trouble un peu parce que finalement c'est vrai que les mystères que je révèle maintenant sont exposés à tous sur le net. Bon, pourquoi pas,
oui, d'accord.
Finalement, dans cette société complètement
dérangée. Ce qui dérange, c'est pas la morale, c'est de plus avoir l'exclusivité.
C'est ça.
Cette société complètement déréglée, pourquoi pas ça ? Bon, vous savez, tous les matins, quand je viens de chez moi et que j'arrive à ici, le nombre d'incivilités que je constate, mais à tous les mètres, c'est absolument inimaginable.
Vous avez fait un petit carnet de notes ?
J'ai pas fait un petit carnet, très vite le remplir.
Quoi comme genre d'incivilité ?
Des tas de choses qui sont le manque de courtoisie, par exemple, tout simplement par rapport à une dame, le manque de gentillesse par rapport à un livreur qui bouche une rue et qui va la boucher pendant 10 minutes en se foutant complètement de tout ce qui se passe autour de lui. C'est un égoïsme. Nous vivons dans un monde d'égoïsme absolument inimaginable.
Et puis, bravo,
et tous ces gens qui refusent.
Oui, Jean-Luc.
Et puis Pierre m'en parlait aussi, il dit qu'il est très choqué parce que beaucoup de gens refusent de se prosterner devant lui.
Ces gens qui disent mais non, c'est pas Pierre Velmar, je reconnais pas sa moustache, ça, il déteste, c'est une incivilité. Merci Pierre Velmar pour ce coup de gueule. Dans un instant, il y aura la bataille des scoops. Valérie Benaïm, Jean-Luc Lemoine, ils sont égalités avec 46 points. C'est Laurent Guimier qui est notre champion avec 53 points. Mais il y a Franck Ferrand qui rentre dans la bataille et s'il gagne aujourd'hui, il marquera 50 points. Voilà, je vous le dis. Puisque je commence à préférer Franck Ferrand et même il est devant Camille Combal pour moi.
Tout
de suite pour la bataille des scoops. Nous sommes sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Dans 20 minutes maintenant, on aura François Valéry qui viendra nous rejoindre. On est très heureux de l'avoir. On va s'écouter que du François Valéry. Je vous le dis, on est assez
fans. Vous êtes en joie depuis ce matin.
Depuis ce matin, ça n'arrête pas.
Depuis le début de la semaine même,
on peut
le dire.
C'est vrai.
Franck Ferrand est avec nous exceptionnellement aujourd'hui. Il fait partie de l'équipe des Pieds dans le Plat, mais vous le retrouvez quand même cet après-midi sur Europe 1. Il y a Jean-Luc Lemoine, il y a Valérie Benaïm, il y a bien sûr Pierre Velmar. Et c'est la bataille des scoops. Qui a la meilleure info ce matin sur Europe 1 ? C'est Pierre qui va décider. On va démarrer par Valérie Benaïm. Ensuite, on enchaînera et on passera par le Jean-Luc Lemoine. Et on terminera par le Ferron.
Très bien. Moi, je vais vous parler de la firme Honda. Vous connaissez la firme Honda ?
Non.
Honda qui fait des motos, Honda qui vend des voitures et qui se prépare à revenir en Formule 1. Honda qui écume le Grand Prix de moto. Bref, Honda. Mais Honda qui n'oublie pas d'où il vient ni comment il a fait fortune, c'est-à-dire en vendant des...
moto.
Des tondeuses.
Oui. Christophe, on l'a.
Bref, lorsque...
Faites entrer l'accusé.
Du coup... Oh non, c'est pas possible. Du coup, lorsque le record mondial de vitesse pour ce type d'engin pour les tondeuses est en jeu, il n'est pas question pour la firme de Tokyo de se laisser couper l'herbe sous le pied, si j'ose dire, par un autre.
Joli.
Du coup, hein, c'est pas mal.
Oui, hein, bien,
merci. Merci. Du coup, les Japonais ont engendré une véritable machine de guerre. Une tondeuse du futur. Un missile animé par un explosif V2. Alors, j'y connais pas grand-chose, mais il paraît qu'un V2, c'est quand même pas mal
V2,
du tout.
Un V2, c'est... Ouais, faut faire gaffe, quand même.
Alors, pour tout dire, ça va rentrer dans, carrément dans le livre Guinness des records. On va trouver ce modèle qui est baptisé le HF2620. Donc, moteur bicylindre en V d'un litre de cylindrée. 109 chevaux. Il pousse quand même jusqu'à 187 km/h. Vitesse de pointe, 210 km/h, la tondeuse.
Non, mais ça sert à quoi? Parce que si...
Si tu sors ton jardin,
tu meurs. Oui. Tu meurs dans le mur du fond. Parce que
vaut mieux pas bronzer tranquille.
C'est impossible.
C'est fou. Vous en avez... Comment... Bah, t'as vu ce qui est arrivé à Patrick. Bah, il a tendu son gazon, puis il a pris le mur.
Bah, voilà.
À 207 km.
C'est ça, il avait 5 mètres de jardin.
Mais pour tous les frustrés qui ne peuvent pas conduire de F1, ils peuvent avoir la tondeuse. Ouais. Et alors, il y a une boîte séquentielle à 6 rapports.
Comment vous faites?
Boîte séquentielle, 6 rapports. La vitesse est par palette au volant. Ouais. Et on s'éclate dessus.
Normal. On sent qu'elle n'y connaît rien.
J'y connais rien. Si ce n'est que voilà, l'engin pèse tout de même 140 kilos. Ah bah, donc il faut être un sacré pilote quand même pour piloter cette tondeuse qui est donc le record.
Il y a un permis tondeuse ou pas?
Pour l'instant, non, tout le monde peut la conduire, ce qui est quand même assez surprenant.
Enfin, vous dites 140, d'après vous, combien elle pèse votre voiture?
Oh bah non, mais c'est 1000 kilos,
c'est voilà, comme ça. C'est pas énorme pour un autoporté, pour une tondeuse.
Oui, mais là on est dessus. Enfin,
moi j'ai travaillé au rayon jardin d'une...
Non, bah, alors attendez, parce qu'elle vient de dire quelque chose d'extraordinaire quand même. Elle vient de dire oui, mais la tondeuse, on est dessus, parce que c'est vrai que quand elle conduit sa voiture, elle est à l'extérieur, en fait. Elle est à côté.
Non, mais
c'est bon. C'est la seule qui a voiture avec sidecar.
Non, mais c'est ça. Elle est juste à côté, en fait. Hein, c'est vraiment. Je viens de chercher. Je t'ai pas vu. T'es pas dans la voiture. Mais je suis à côté. Allez, merci, Valérie Benaïm. C'est bien quand elle parle de choses qu'elle ne comprend pas.
J'essaie d'ouvrir mes chakras et mon esprit.
Ouais, allez,
vous voulez pas les ouvrir sur une autre station? Allez, Jean-Luc Lemoyne.
Alors, pour beaucoup de gens, deux hommes ont remarqué les deux derniers siècles. Il faut le dire, pour le 21e, Cyril Hanouna, et pour le 20e, John Lennon. Ah. Et le membre des Beatles, il faut savoir, est sujet d'un véritable culte, et tous les objets lui ont appartenu sont un jour ou l'autre vendus aux enchères. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2010, on avait vendu pour 11 600 euros sa cuvette de toilette.
Non.
Oh là.
Si, celle où il avait posé son divin postérieur. Et fin 2013, on avait vendu ses carnets de colle, ses archives scolaires. Eh bien, là, c'est une lettre écrite à la main du chanteur et compositeur qui était adjugé, d'après vous, combien? Juste une lettre
5 000 euros?
Non, 64 000 euros.
Wow.
Alors, c'est déjà beaucoup, c'est sûr. Mais ça l'est encore plus quand on connaît le contenu de la lettre, puisque c'est une lettre de John Lennon adressée au producteur Phil Spector à propos d'un incident urinaire en studio.
Non.
Alors, ouais, cette lettre a été écrite entre 73 et 75. Ils peuvent pas la dater précisément. Et ça s'appelle A Matter of Pee, une affaire de pipi. Et dans cette lettre, le chanteur des Beatles accuse le batteur des Who, Keith Moon, et Harry Nelson d'avoir uriné sur une console de mixage en studio. Donc, à l'encre rouge, Lennon écrit, notamment, c'est les producteurs, au cas où tu ne le savais pas, c'est Harry et Keith qui ont pissé sur la console. Donc,
ils se balancent entre eux.
C'était une petite balance, c'est ça.
Et donc,
c'est aussi ça l'histoire du rock'n'roll. Et donc, ça a été vendu 64 000 euros. Et moi, j'aime mieux vous dire que je fais attention à la suite et je garde tous les post-it que me donne Cyril.
Oh, il est lourd. Ouais, vous aimez cette information?
Je ne l'aime pas, parce que c'est vraiment...
Non, mais on parle
de la délation à retardement. Bon, mais et qu'on lui a acheté 63 000 euros.
64 000.
Oui, 64 000. C'est grotesque. Bon, c'est grotesque. Mais cela dit, c'est bien, toujours une belle représentation de notre époque.
Exactement. Merci. Merci, Pierre Belmar. Pierre Belmar, aujourd'hui, je vous le dis, il est colère. Hein.
Il est
colère sur l'époque, hein, sur la journée.
Les incivilités.
Vous êtes mal réveillé, Pierre?
Pas du tout. Je suis même très, très bien réveillé puisque mon mal de bras, enfin, m'échappe.
Ah, très bien.
Ce
merci.
Qui est bien.
Merci. Donc, Pierre Belmar n'a plus mal au bras, ce sera l'info prépondérante de cette bataille des scoops. Franck Ferrand.
Alors moi, je vais vous parler d'une très belle découverte. Vous savez qu'en Italie, les policiers, les douaniers portent le nom de carabiniers, les carabinieri. Et c'est très joli, ça. Bon, ils ont fait avant-hier, une découverte extraordinaire en Sicile. Ils ont découvert deux tableaux. Un tableau absolument extraordinaire, une nature morte au petit chien de Gauguin. Et puis un autre tableau qui s'appelle la dame ou la femme aux deux fauteuils de Bonnard. Donc deux chefs-d'œuvre chef-d'œuvre de l'impressionnisme français, des tableaux qui étaient très célèbres, qui faisaient partie de la collection Mark Kennedy à Londres et qui ont été volés en 1970. Alors, on ne savait pas du tout ce qu'étaient devenus ces tableaux, et pour tout vous dire, les experts en art en avaient fait depuis très longtemps leur deuil. Eh bien oui, mais sauf que ces tableaux, ils avaient été abandonnés par leurs voleurs, par les cambrioleurs, dans le train entre Paris et Turin. Ils ont été découverts par les agents des chemins de fer, qui les ont mis aux objets trouvés, et puis comme ça a lieu, au bout de quelques temps, je crois que c'est plus d'un an, on a mis les objets en question aux enchères. Mais vous savez, c'est des petites ventes aux enchères qui se font comme ça sur le quai de la gare, c'est le cas de le dire. Et c'est un brave ouvrier de chez Fiat qui a acheté ces deux toiles pour l'équivalent de 23 euros d'aujourd'hui.
Non,
donc il avait ça tranquillement. Et les tableaux aujourd'hui sont estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros chacun. Sauf qu'il les a eus dans sa cuisine pendant 40 ans. Donc il faisait ses petits plats à côté de deux chefs-d'œuvre de l'art.
C'est fou. On voit surtout que Franck Ferrand est bien meilleur en affaires que Jean-Luc Lemoyne, alors que lui a acheté une lettre à 64 000 euros. Franck Ferrand nous parle de deux tableaux exceptionnels à 23 euros.
C'est ce qui est formidable.
Donc, bravo Franck Ferrand. Si ça peut faire des affaires aussi.
Si je peux me permettre, parce que c'est vrai que là, on sent le compteur et là, on se fait toller tout de suite parce qu'il raconte mieux les histoires. J'adorerais un jour, Franck, que vous racontiez une histoire de Toto avec votre voix comme ça.
Non, mais c'est vrai, il peut pas nous. On va le faire aujourd'hui. Pourquoi un jour
Toto qui fait caca derrière l'église.
Non, non, c'est bon, non, pas celle-là, mais on va lui en préparer une. Alors, Pierre Bellemare, qui avait la meilleure info? Je crois que c'est clair.
Oh, c'est clair. Ça mérite les 50 points que vous avez annoncés déjà.
Eh bien, bien sûr.
C'est évident.
C'est pour Monsieur Ferrand.
Ah oui.
Eh bien, Franck Ferrand, qui démarre. Qui vient exceptionnellement nous voir et qui repart avec 50 points.
Excusez-moi Cyril, je vous aime énormément. Mais nous, depuis le début de l'année, on trime, on cherche des anecdotes et tout. L'autre, il arrive, en un jour, il nous dépasse. Vous ne nous motivez pas.
Non, mais il vous dépasse pas.
Mais on va les réaliser, les 50.
Façon de manager son équipe.
Il ne vous dépasse pas. Il vous dépasse.
Mais si.
C'est infect.
Il vous dépasse, mais ça ne veut rien dire. Vous allez faire plus d'émissions que lui, donc vous repasserez devant lui. Allez, on va s'écouter François Valéry. Aimons-nous vivants tout de suite sur Europe 1 à 10h49. Ce sera notre invité à 11h01.
Comme une envie de dire je t'aime quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher.
Peut battre Jean-Luc Lemoyne.
Et nous jouons donc contre Jean-Luc Lemoyne. Hein. C'est Yann qui va jouer avec nous dans un instant. Valérie Benaïm, est-ce que vous pouvez nous rappeler le cadeau?
Il s'agit de 300 euros tout de même. 300 euros et on joue avec Télé 7 Jeux. D'ailleurs, attention, dès demain, vous retrouverez votre nouveau Télé 7 Jeux chez votre marchand de journaux.
Merci Valérie Benaïm. Yann est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour Cyril. Bonjour à tout le monde.
Bonjour Yann.
Comment ça va Yann?
Très bien, merci.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis à la recherche d'emploi, je suis dans le marketing et la communication, moi.
D'accord, très bien. Vous habitez où?
J'habite à Bas-sur-Mer, c'est à côté de Guérande.
Oui, c'est ça, Bas-sur-Mer. Alors, je sais pas vous, Yann, mais moi, personnellement, je trouve que le plus beau coin de Bas-sur-Mer, c'est la plage Valentin située entre la pointe de Casse-Caillou et la pointe du Fort. Je trouve ça magnifique.
Effectivement, ouais, c'est très sympa comme endroit.
Je vais souvent me ressourcer seul là-bas.
Ouais, vous avez vu la dernière fois.
Vous pensez à quoi à ce moment-là, Cyril?
Rien, je chante de vieilles chansons.
C'est vrai?
Oui. Face à la mer?
Oui, face à la mer.
Vous savez ce qu'on ramasse
là-bas?
On ramasse ce qu'on appelle les cochons roses, qui sont des tout petits coquillages magnifiques qu'on trouve à peu près que dans cette région.
C'est vrai, ouais. C'est vrai. Bah écoutez, j'ai une collection de cochons roses. Venez les voir, mais c'est peut-être pas ce que vous croyez. Allez, vous allez jouer donc contre Jean-Luc Lemoyne. D'accord, Yann?
D'accord, ok.
Allez,
très bien.
300 euros en jeu, je suis à fond avec vous, Yann, d'accord?
Okay,
en plus,
bah,
Jean-Luc, sachez qu'il n'a pas trop révisé.
Mais non, je pensais que c'était Laurent Guimier. Donc, j'ai fait des impasses.
Allez, on y va, attention. Une minute de question, Jean-Luc. Qui est notre nouvelle ministre des Sports?
Najat Vallaud-Belkacem.
Oui, à quel réalisateur de cinéma Eddie Mitchell et Johnny Hallyday ont dit salon?
Lelouch.
Oui, quelle reine effectue aujourd'hui une visite éclair à Rome pour rencontrer le pape François?
La reine d'Angleterre.
Quel instrument à cordes joue l'épouse du nouveau premier ministre français?
Le violoniste.
Oui, qui est ce chanteur turc né un 3 avril?
Si tu vas à Rio.
Dario Moreno.
Top. Non, c'était Tarkan.
Ah. La chanson du bisou.
Bien sûr, c'était Dario Moreno, si tu vas à Rio. Allez, on repart. À 100 euros près, combien les Français perdent par an dans les jeux d'argent?
100.
400 euros. Vrai ou faux, Julie Gaillet a refusé le ministère du droit des femmes.
Faux.
Quel couturier allemand a photographié Zlatan Ibrahimovic pour le magazine Hellman? Oui, Karl Lagerfeld. Combien font 9 par 4 moins 33? 9 par 4 moins 33?
3.
Oui. Quelle femme politique présidente du parti chrétien trouve que l'homosexualité est une
Christine Boutin.
Oui, on dit des conneries, Christine Boutin.
Combien de buts? Si vous voulez, faites des commentaires.
Oui, c'est vrai. Combien de buts le Real Madrid a marqué contre le... Oui. Quelle est la couleur de Titi, de Titi et Grosminet?
Jaune.
Oui, combien y a-t-il de cloches dans le titre d'une chanson d'Edith Piaf?
3.
Oui, dans quelle ville Jeanne d'Arc fut-elle mise au bûcher?
Rouen.
Oui, Rouen, il est pas mal, hein.
Ah oui,
mais
bon.
Bah, surtout avec quand vous avez raconté votre vie au milieu. Si je peux me permettre.
Oh, il vous parle mal, il vous parle mal quand même.
Ah, vous lui avez mangé 15 secondes, hein, j'ai constaté.
Apparemment, hein. Il n'a pas compris le message de François Valéry, aimons-nous vivants.
L'insolence du garçon.
Que l'insolence ne mène pas bien loin, mais ça le mène quand même, ça le mène quand même à 13 points, Jean-Luc Lemoine. Wow. Hein. Bien joué. Allez, Yann, on donne tout, Yann.
Vous inquiétez. Ouais, costaud, là, quand même, 13 points.
Oui, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous raconterai pas ma vie pendant votre duel.
D'accord, bah, c'est sympa.
Attention. Top. Qui est notre nouvelle ministre des Sports?
Valo Belkacem.
À quel réalisateur de cinéma est dit Michel et Johnny Hallyday? On dit salaud, on t'aime.
Lelouch.
Ah, je me suis trompé de questionnaire, on repart.
C'est minable.
On repart, Yann. C'était juste pour énerver Jean-Luc Lemoine.
Allez, non, très soin.
On y va vraiment. Quel ex de François Hollande est revenu dans sa vie, mais en tant que ministre de l'écologie? Allez, Yann.
Ségolène Royal.
Oui, dans la série Dallas, quel personnage très très méchant était joué par Larry Hagman?
J.R.
Oui, quelle Scarlett sera dotée de super pouvoirs dans le prochain film de Luc Besson?
Scarlett. Ouais, je passe.
Allez, qui est ce chanteur qui fête ses 35 ans aujourd'hui? Oui, vrai ou faux, il vaut mieux éviter d'être malade en ce moment car il n'y a plus de ministre de la Santé.
Vrai.
Oui, quel Disney est devenu le week-end dernier le dessin animé le plus lucratif de tous les temps?
Le Roi Lion.
Non, la Reine des Neiges. Quel empereur romain a déclaré allez à Jacques Taest?
César.
Oui, on en connaît rien qu'un. Hein. Quel ministre de la Justice le collectif anti-mariage gay avait prévu de fêter le départ un peu trop tôt? Oui. Quel chanteur de jazz rimeur de phrases jouera les comédiens dans une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt?
Je passe.
Michel Sardou, combien font 8 par 4 moins 31?
8 par 4 ou moins 31, 3.
Non, 1. Ouais. Qui a animé l'émission télévisée à vie de recherche?
Pradel.
Non, Sabatier. Que tient la statue de la liberté dans sa main droite?
Une torche.
Oui. De quel pays Dimitri Medvedev est le premier ministre?
Russe.
Oui. De toute façon, en Russie, il y a ou Medvedev?
Ou Poutine.
Ou Poutine. De toute façon, il change. Voilà, il change.
C'est
que tu veux être l'année. Tu préfères pas être Premier ministre?
Oh, s'il te plaît, c'était toi.
Laisse-moi être président, j'étais Premier ministre la dernière fois, ça va. Oh. Bon, alors, bonne réponse. Alors, c'est Patrick Sabatier hein, qui est oui. animé à vie de recherche.
Il est peut-être un petit peu jeune aussi, il a peut-être pas connu.
Ouais, c'est ça. Et puis, la statue de la liberté, elle a dans sa main droite un flambeau. Et je crois qu'elle fera le prochain Koh-Lanta d'ailleurs.
Un flambi.
Oh là là.
La Reine des Neiges a dépassé les 1 milliard de dollars de recettes, sachez-le. Voilà, il y avait 13 points à battre, vous avez fait, Yann, 8 points, mais on va vous couvrir de cadeaux quand même.
Oui, on va vous offrir déjà 2 places pour aller voir au cinéma Dancing in Jaffa, qui est un film Europe 1 très émouvant. Et on va vous offrir également un DVD Europe 1.
Oui, et autre chose, 2 places de spectacle.
2 places de spectacle également voilà. Allez, 2 places de spectacle.
Tout ça, c'est pour vous, Yann. Je vous embrasse fort, Yann, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, bonne journée à tous.
Merci beaucoup Yann. Allez, dans un instant, on va recevoir François Valéry sur Europe 1 et bien sûr Franck Ferrand, Pierre Belmar, Jean-Luc Lemoine et Valérie Benaïm. Reste avec nous, à tout de suite.
Les pieds dans le plat sur Europe 1. Europe 1. 10h30, 12h30. Les pieds.
Les pieds dans le plat.
Dans le plat.
Cyril Hanouna.
Il est 11h04. Nous sommes sur Europe 1, dans les pieds dans le plat, avec Pierre Belmar, avec Valérie Benaïm, avec Jean-Luc Lemoine, avec Franck Ferrand qui est exceptionnellement avec nous et on en est ravis. Merci Franck d'être là. Franck, j'aimerais juste qu'on revienne un petit moment sur la question, hein, sur Jules César.
J'aurais mieux fait de me taire.
Non, mais si, dites la vérité.
Non, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Certains l'ont appelé impérator, mais en fait, il ne fait pas partie de la liste des empereurs romains. Il était seulement dictateur, il a été assassiné avant, vous savez.
Ah, non, c'est ça. Mais, vous voyez, César, Valérie Benaïm croyait que c'était une salade.
Fais-moi passer pour une crétine.
C'est un sculpteur, surtout.
Oui. Aujourd'hui, notre invité, c'est un chanteur populaire aux 40 millions de disques vendus. C'est des tubes des années 70 et 80, comme Elle danse Marie, il y a aussi Mon Nous Vivant qu'on vient d'entendre, il y a bien sûr Mon Pote le DJ, il y a Emmanuel aussi.
Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle, Emmanuel.
On On l'écoutera tout à l'heure en entier d'ailleurs. Emmanuel, il vient nous voir pour la sortie de l'album Je suis venu te dire, qui sort le 7 avril. Et tout le monde en parle en ce moment. Merci d'être avec nous. En tout cas, François Valéry, merci.
Bonjour Cyril, bonjour à vous tous.
Il y a des fans dans le public.
Ils sont là.
Il y a une ambiance. Alors François, est-ce que vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça représente pour vous, 40 millions d'albums quand même vendus?
Ça, c'est les expertises qui ont dit ça dans le cadre d'un litige juridique.
Mais quand même.
Non, mais c'est entre ce que j'ai fait pour moi et pour les autres aussi, parce que j'ai. Alors, juste avant de démarrer,
oui,
je voudrais vous dire la joie que j'ai particulière d'être là aujourd'hui.
Ah, merci François, merci beaucoup.
À double titre. À triple titre, même. Parce que d'une part, je suis très heureux de voir Monsieur Bellemare, pour qui j'ai une estime évidente, comme toute la France d'ailleurs.
C'est vrai, tout le monde a
une
estime.
Et puis, je vais pas non plus faire, bon, j'ai passé l'âge de pas dire ce que je pense. Je vous adore vraiment, Cyril.
Merci, François.
Je vous adore, ma petite Valérie. Je vous adore, mon petit Jean-Luc.
Merci, François.
Et merci François.
Vous êtes ce qu'on appelle des petits rayons de soleil.
Eh bien merci, parce que je sais que François est un téléspectateur assidu aussi de
c'est
Touche pas mon poste.
C'est le moins qu'on puisse
dire. Il nous écoute aussi sur Europe 1. Merci en tout cas d'être là. Ça fait longtemps qu'on vous attend, qu'on vous veut dans cette émission. Et on est bien content que l'album sorte, puisqu'on l'écoute nous tout le temps dans les bureaux.
Ah oui, c'est la boîte de nuit dans les bureaux.
Alors, c'est à Europe 1 que tout a commencé pour vous.
Ah oui, c'est pour ça que je suis très ému, parce que c'est là que j'ai démarré ma carrière. C'était en fait... Pour rétablir un petit peu la vérité, la première personne qui me découvre, c'est un producteur un peu qui est pas très connu, qu'on voit jamais chez vous, c'est Gérard Louvain. Il faut remettre à Loulou ce qui est à Gérard quand même. Ouais. J'avais 16 ans, il était directeur artistique chez Claude François, donc ça n'a pas pu se faire. Et après, j'ai fait le coursier pour produire mon disque, parce que personne, ça marchait pas. Et j'avais rendez-vous avec un attaché de presse à l'époque, qui s'appelle Jean-Paul Barkov, qui s'occupait de Mike Brandt. Et c'était la fameuse émission de Jacques Horowitz, 7 à 8. Mmh. Et j'ai porté mon disque, et Mike a pris mon disque, il l'a mis sur la platine, il a dit, écoute, je crois que la chanson est pas terrible, mais je crois qu'il y a quelque chose. Et ma carrière est partie de là, c'est avec fou, Mike Brandt.
Mais ça s'est passé dans les couloirs d'Europe 1.
Comment concrètement? Vous êtes arrivé avec
J'avais 17 ans et demi, quoi, donc... Et puis je voulais un attaché de presse parce que j'étais jeté un peu de partout. Mais en général, c'est bon signe quand on se fait jeter de partout.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'on était au printemps 74, dont on parle beaucoup en ce moment, puisque c'est...
C'était avant.
C'était avant.
Et après, je sais sur quoi vous allez rebondir, François pour Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing.
Oui, surtout. Et
puis je vais vous répondre. T'as vu un peu
la force de Pompidou à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein de versions là-dessus.
Pourquoi François Valéry?
Alors, en fait, la véritable histoire, c'était qu'il fallait me trouver un nom. Et... Il y avait une attachée de presse de Marcel Hamon, Jacqueline, qu'on appelait Ture le Tutu, qui a fait bouger les tables, et qui a, mais je déconne pas, et qui a donné mon nom en bougeant les tables. Alors A, B, C, D, E, F, machin, et c'est devenu François Valéry. Et
vous auriez pu vous appeler Xuf?
Tout à fait. Et comme mon disque est sorti pendant les élections en 74, il y a un journaliste de François, je ne sais plus lequel c'était, qui a dit François Valéry, il fait l'unanimité, etc. Voilà. Et depuis, ça me plombe depuis 40 ans.
Ah oui.
Mais vous avez pas eu peur
qu'il y ait eu trop de François? Il y avait Claude François, Frédéric François.
C'était comme ça.
Fallait mettre François dans le nom à l'époque.
Gage de succès.
Et là, on est bien sûr rue François 1er.
Voilà. Oui, tiens, c'est pas con.
Vous savez, je ne suis pas plus con que j'en ai l'air. C'est bon, François. Alors, Valéry, on va revenir sur la carrière.
Oui, Franck Ferrand évoquait 74, premier succès avec un titre, une chanson d'été. Une chanson d'été, c'était ça.
Une chanson d'été ne s'oublie jamais, tout à fait, pour ceux qui s'aiment.
Premier gros succès, vous aviez à peine 20 ans à l'époque.
J'ai mué depuis.
Vous conservez quand même la même voix.
On entend la même voix, ça n'a pas beaucoup bougé.
Vous êtes sympa, Jean-Luc. Je vous trouvais du talent, sympa et tout, mais là, vous êtes vraiment très gentil.
Alors, avec ce succès, quand on a 20 ans et qu'on reçoit son premier cachet, son argent, qu'est-ce qu'on s'offre comme folie?
La première chose, c'est qu'on gâte sa mère. C'est la première des choses.
Vous l'avez gâté avec quoi?
Des bijoux, une télévision.
Non, c'était la vitrine du juste prix.
C'est ça. Voilà.
C'est vrai.
Allez, je vais prendre la lampe halogène. Ah, merci. Non, mais c'est distant.
Donc, bon garçon.
Oui.
Sept ans après, en 81, vous chantez en duo avec celle qui est devenue une star l'année précédente avec La Boum, Sophie Marceau. Et votre chanson, Dream in Blue, s'écoule à 2 millions d'exemplaires.
rappelle des souvenirs, ça. Ah. Wow. Moi, j'avais une cousine, j'ai toujours d'ailleurs, mais qui à l'époque était sans doute votre plus grande fan. Vous la connaissiez pas, c'est bien dommage. Elle ne pensait qu'à vous. Et elle était convaincue que vous aviez à l'époque une liaison avec Sophie Marceau. Alors,
c'est ce qui s'est dit. Ouais.
Alors, c'est les rumeurs qui couraient.
C'est pas parce qu'on fait un duo avec quelqu'un qu'on a une liaison. Hein.
Et d'ailleurs, que j'ai vu la semaine dernière, parce qu'elle a...
La cousine de François.
Non, Sophie Marceau.
Elle adorerait ça. Non. Et j'étais très, très heureux parce que je l'ai vu la semaine dernière. Je lui ai laissé mon disque. Elle m'a rappelé. Et elle a trouvé ça. Elle a trouvé l'album formidable.
C'est vrai qu'il est formidable.
J'étais boire un café chez elle. Et je peux vous dire une chose, Cyril. C'est que Sophie, dansant sur les DJ font danser le monde.
Non.
Vous allez avoir du boulot par rapport à Touche pas mon poste.
Ah, mais seulement danser.
Ce qu'elle a pas, c'est le petit. La Anouda Dance, elle l'a pas encore dans le truc.
C'est fou, ça. Mais vous avez gardé donc contact avec elle.
Ah oui, c'est la famille, Sophie. Oui. Vous savez, quand on a un souvenir de vente de disques comme ça, c'est des merveilles. Il y a des gens comme ça qui font partie des jolies pages de votre vie.
C'est magnifique, hein, vous avez réussi à pas répondre à la question de Franck Ferrand. Bravo.
Bien joué, bravo François. Bravo.
Non mais bon.
Non mais je veux dire, avant Ferrand, c'est pas parce qu'on fait un duo qu'on a forcément une aventure.
Ah non, mais
parce que Bataille et Fontaine.
J'aurais aimé que ma cousine soit éclairée quelques années plus tard.
Bah, très bien. Et ben, on appellera votre cousine.
Vous poserez la question à Sophie Marceau quand vous la recevrez pour son film.
Eh bien très bien. Eh ben on fera ça. On va parler du nouvel album dans un instant. Je suis venu te dire, c'est le nouvel album de François Valéry qui sort le 7 avril. Mais pour le moment, on se fait un petit plaisir, on s'écoute. Nos DJ font danser le monde. Ah. Cet extrait du dernier album, vous venez d'en parler. Sophie Marceau ne va pas danser sur Europe 1.fr, mais au moins toute l'équipe des pieds dans le plat. C'est parti.
Et nos DJ font danser le monde. Oui, même ça, je l'avais oublié. Et le son que leurs âmes nous pondent jusqu'aux voix des volcans qui répondent.
Oh, oh, oh.
Nos DJ font danser le monde. François Valéry qui est notre invité aujourd'hui. L'album sort le 7 avril. Merci d'être là, François Valéry. Merci beaucoup. Alors, votre dernier album, il datait de 1997, il y a 14 ans.
C'est exact.
Comment vous vous sentez là? Vous avez l'air tout excité, hein, cette sortie d'album.
Excité, serein. Serein, ouais. Parce que je suis plus dans
vous
le
en
même...
êtes très content.
Oui, je suis très content, surtout par rapport à... Je pense qu'il fallait que... Bon, parce que la véritable histoire, si j'ai pas fait, si vous voulez, de 10 pendant 14 ans, c'est parce qu'il y a eu des petits soucis qui ont été résolus. Que ça dirait
Quels sont les soucis?
Les soucis, c'était qu'en 2002, j'ai fait une comédie musicale. Il y a eu des problèmes. Et puis ensuite, la justice m'a rendu mes droits. Il faut 10 ans pour tout ça. Donc tout ça, c'est du passé. C'est la raison pour laquelle j'ai refait mon métier. Mais c'est beaucoup de joie. J'ai plus la pression que j'avais avant. J'ai plus le... Je suis plus dans le même move, quoi. Je veux dire, moi, pendant des années, j'appelais tout la veille pour savoir ce que j'avais vendu le lendemain, un peu comme vous avec vos audiences, parce que finalement, on fait tous quelque part le même métier. Si on fait des chansons, c'est pour qu'elles pèsent au public. Si vous faites rire les gens, que vous avez envie de les faire rire, c'est pour qu'ils soient heureux et faire de l'audience. Donc voilà, quoi.
Vous avez passé des années d'enfer, c'est ce que j'avais lu.
Tout le monde peut se retrouver dans des situations inextricables. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'humilité dans la vie et beaucoup de gentillesse. Et puis,
ça vous a servi pour écrire cet album?
Pour moi, c'est des petites cartes postales. Ça, c'est... Il y a eu un voyage de douleur, c'est clair. Mais bon, je ne vais pas me plaindre non plus. Quoi. Quand je sors dans la rue, les gens m'aiment bien.
C'est vrai, et on le voit
et
ici.
Puis, là, bon, avec la carrière de compositeur, on est quand même... Mais c'est vrai que ça a été violent, très très violent.
Alors, vous dites que les gens vous aiment bien, nous sommes allés dans la rue, demander aux gens, on leur a dit François Valéry. Non, vous inquiétez pas, écoutez ce qu'ils ont dit.
François Valéry, c'est un chanteur.
C'est un homme politique. François, c'est un prénom de Bourges, c'est à droite.
C'est un chanteur de variété.
Ma femme aime bien, c'est un peu romantique.
C'était un chanteur à minette.
C'est la chanson française classique.
Sur les années 80, non?
Je crois bien me rappeler que je dansais dessus en discothèque et tout ça.
Aimons nous vivons.
N'attends plus que la talent.
C'est un beau garçon.
Pas très grand, blond, un peu la belle mise en pli.
Vous savez pas qu'il revenait.
Bon retour et puis que ça fonctionne bien pour lui, quoi, que ça marche.
La belle mise en pli.
Le compliment que vous rêverez Valérie Benaïm.
Malheureusement, on fera un micro-trottoir sur Valérie Benaïm un jour. Alors on va parler de cet album qui s'appelle donc Je suis venu te dire. Vous êtes venu dire quoi alors? Dans l'album.
D'abord, c'est le titre d'une chanson.
Oui.
Et je trouve que ça représentait bien. Je suis venu te dire les titres qu'il y a dans cet album. Et je sais que votre assistante m'a dit que, en grand professionnel que vous êtes, que vous avez tout écouté.
Ah oui.
Bon, il y a nos DJ font danser le monde.
Bien sûr. Mais c'est festif, hein, comme album. C'est ça qu'on aime aussi.
Oui, il y a aussi des balades. Oui, c'est festif. Il y a une nostalgie positive aussi.
Voilà, c'est ça.
Et puis, ce que l'on s'est attaché à faire surtout, C'est de faire une bonne production. Vous savez, moi, j'ai rien inventé. Ouais. Vous en êtes rendu compte. Et ce que j'essaie de faire, c'est juste des bonnes chansons qui soient bien faites et surtout bien produites. Parce qu'au niveau du son, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut mettre les pieds dans le black.
Franck Ferrand.
Oui, alors ce qui m'intéresse aussi, c'est tout la façon dont vous regardez tous les débuts de votre carrière. L'année dernière, vous avez participé à la tournée H. Tendre et Tête-de-Bois.
Je l'ai faite en participation exceptionnelle, je n'ai pas été jusqu'au bout.
C'était comment?
C'est-à-dire, moi, j'arrivais, je faisais un petit set de 20 minutes, puis je repartais tout de suite après, mais je ne l'ai pas terminé.
Pourquoi vous ne l'avez pas terminé?
Je ne l'ai pas terminé parce que j'ai eu des petits problèmes de santé. D'accord, puis après, il a fallu faire.
Il fallait bosser sur l'album aussi. Hein.
Absolument.
Alors, justement, mais sur l'album, quand vous l'avez intitulé Je suis venu te dire, vous n'avez pas eu peur que ça donne un côté un peu nostalgique ou même qu'on puisse penser que vous repreniez des chansons de Gainsbourg?
Non, il fallait trouver un titre. Vous savez, c'est toujours après qu'on sait les choses. Il y a des thèmes qui sont un petit peu différents dans cet album. Il y a des chansons comme le bal des dingues, le putain d'amour, on m'attend pas forcément. Une chanson qui s'appelle Ma petite sœur est un homme.
C'est assez,
assez large. Après, bon, on verra plus tard. Mais ce qui est important, c'est de faire ce qui me ressemble et d'essayer que ça plaise au maximum.
Valérie.
Vous dites justement que vous êtes un artisan de la mélodie et de la musique. Ça se traduit comment dans votre travail? Sur ces 12 chansons, comment vous avez écrit, par exemple, vos textes? Vous avez des rituels?
Déjà au départ, c'était il y a 5 années de travail quand même. Bon, 5 années de travail, j'ai dû faire 18 ou 19 chansons. Je suis arrivé il y a un an et demi au studio, puis j'ai viré la moitié de l'album parce que c'est sa partie acoustique et puis c'était d'une tristesse à mourir. Donc il faut bien se remettre en question. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec un garçon qui s'appelle Volodia, qui est à mon sens un des meilleurs ingénieurs du son qu'il y a en Europe, si c'est pas au monde, qui est juste un arrangeur et un homme extraordinaire. C'est pour ça que l'album est bien produit. On a mis les petits plats dans les grands et les pieds dans le plat au niveau des musiciens également, parce qu'on a à la batterie, à la basse, enfin il y a les cordes de l'Opéra de Paris. Enfin, je veux dire, c'est une grosse prod, quoi. Je me suis fait plaisir. Oui.
Hein. Franck,
on a dit un mot justement de cette chanson, Ma petite sœur est un homme. Vous abordez l'homosexualité. C'est une nouvelle carrière.
Non, pas du tout. Ça fait partie. Vous savez, je suis un peu comme Cyril Hanouna. Je suis beaucoup plus profond qu'on le pense.
Mauvaise comparaison. Mais je connais bien Cyril Hanouna.
Dans Cyril Hanouna, on l'a toujours.
Pas sûr, non, mais c'est-à-dire que mais ça fait partie d'un choix de chanson. C'est un peu la cruauté de la solitude. Quoi.
Vous avez dit, j'ai voulu décrire la beauté dans la cruauté d'une certaine détresse.
Bien sûr, parce qu'on a tous des amis homosexuels et que voilà.
Vous l'avez écrit avec Christine Boutin, ce titre?
Non.
Merci.
Non.
Il y a également le titre.
Et je ne l'ai pas écrite non plus pour certaines personnes que je ne citerai pas.
Dans le titre, Elle n'a pas de mari, vous parlez de ces mères célibataires aussi qui élèvent seules leurs enfants. C'était une manière de rendre hommage à votre maman à travers cette chanson?
Non, c'est juste un peu sociétal. Et puis, il y a quand même une mélodie qui est festive. Et puis, c'est vrai que c'est un thème de chanson de ces femmes qui ont des enfants de pères différents puis qui se battent pour les élever. Mais tout ça sous le ton de la joie, quoi.
C'est
si on creuse un peu le texte, il n'y a pas.
C'est un album joyeux, c'est un album festif, mais où on retrouve des textes où il y a du sens. Exactement, Valérie Benaïm.
Des vrais textes.
On va reparler de Je suis venu te dire. La sortie de l'album est prévue le 7 avril. On fera le vrai faux sur François Valéry dans un instant. Et puis, bien sûr, il y aura l'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Je sais que vous l'attendez, François. À tout de suite sur Europe 1. Nous sommes sur Europe 1 avec François Valéry, qui est notre invité. Son nouvel album, il est très attendu, il sort le 7 avril, donc la semaine prochaine, lundi prochain. Ça s'appelle Je suis venu te dire. Alors on trouve beaucoup de titres, voilà, des titres très très dansants, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a des ballades, comme d'ailleurs Je suis venu te dire, qui a donné son titre à l'album, ou encore Vous m'avez sauvé la vie. C'est une émouvante déclaration d'amour, hein, d'un père à ses fils. Là aussi, vous vous êtes inspiré de votre propre histoire et de votre relation avec vos enfants.
On s'inspire toujours un petit peu de sa propre histoire, de ses propres racines. Mais je pense que c'est juste une chanson qui s'adresse, qui est faite pour les papas, avec ces relations qu'il peut y avoir avec les enfants, un peu les relations un petit peu jalouses, quoi, qu'on a avec ses fils. On a plutôt de C'est... Vous savez ce que c'est qu'un père pied noir ?
Non, c'est quoi ?
C'est une mère normale.
Ah, c'est joli.
François, quand on écoute l'album, on se dit qu'on a envie de le voir sur scène. Cet album, est-ce qu'il va y avoir une tournée ? Est-ce que vous l'avez ?
Oui, jusqu'en 2040.
Ah, très bien, d'accord. Jusqu'en 2040.
Vous avez rentabilisé l'album.
Non, si, je pars en tournée. 26 ans de tournée.
Non, je pars au minimum pour 18 mois. Ouais. Mais on va y se passer un petit peu les trucs parce que quand c'est tous les jours, avec 2h15 de spectacle, je préfère en faire 2-3 par semaine.
D'accord.
Mais c'est prévu. Et puis en 2016, on fera une grande scène parisienne.
C'est ce que fait également Patoche avec Benahimi, préfère l'avoir 2-3 fois par semaine.
Bien espacé,
sinon il craque. Allez, on va faire le vrai faux sur François Valéry. C'est François Valéry qui a écrit la chanson d'Annie Cordy, Chaud Cacao, vrai ou faux?
Non.
Faux, eh bien c'est vrai.
Ah non, bon non, c'est faux, c'est une connerie.
Non, alors, c'est vrai.
Faut pas déconner.
Non, mais c'est vrai. Arrêtez, c'est vrai.
Non, j'ai écrit une chanson pour Annie Cordy qui s'appelle Le Tour de sa vie, une très jolie chanson.
Ah, ouais.
Mais non.
Mais
non.
Chaud Cacao, non.
Non.
C'est vrai, c'est ce qu'on m'avait dit, moi.
Non.
Et ben, vous voulez pas l'écrire?
C'est pas facile d'écrire des chansons.
Pour moi, ce sera vous. Chaud Cacao, ça fait ça, bien sûr. Alors ça, c'est Tata Yo-Yo,
ouais,
merci. Hein. Mais ils sont fatigués en régie. Ils sont pas très Annie Cordy. Eux, sortis de François Valéry, ils connaissent rien.
Alors, est-ce que c'est vous qui avez écrit Tata Cacao? Tata Cacao.
Alors, on a Annie Cordy qui vous a laissé un petit message. Écoutez.
C'était un jour de pétanque, et lui, il adorait jouer à la pétanque, alors je faisais des pétanques après le spectacle, parce que c'est vachement mieux le soir, la nuit, hein, quand on a encore des kilomètres à faire après. Alors, on s'arrêtait sur la route, n'importe où, et puis hop, et hein, il décidait de faire une partie de pétanque, il faisait une partie de pétanque, il s'engueulait, bien sûr, mais bon, les pétanques, une fois que c'est fini, après c'était, on va bien boire un coup, et puis on va casser une croûte, quoi. Et moi, assise dans la voiture, j'entendais qu'ils aient fini ces deux abrutis.
Annie Cordy qu'on embrasse fort, voilà, qui nous écoute très Alice souvent d'ailleurs. Sur Europe 1.
J'étais très très ami avec son mari. C'est un personnage. Un vrai personnage. Et quand on faisait des galas, je préférais monter avec lui. Alors il y a une grosse bagnole américaine et moi je le titillais aux boules. Parce qu'il montait. Il démarrait au quart de tour.
Vous jouez bien au boule ?
Oui, je jouais pas mal, mais l'hiver à 2h, 3h du matin, je me le chauffais bien en lui disant c'est dommage que tu saches pas jouer au boule. Et alors il a arrêté la bagnole dans un truc, je vais t'abattre comme une bête malfaisante.
Non.
Et pendant ce temps-là, Annie dormait dans la voiture.
Alors, Annie Cordy qui est devenue baronne maintenant, vous savez.
Ah oui, non, je sais
Elle
pas.
A été anoblie par le roi des Belges. Oui.
Bah voilà, bah vous voyez, il a toujours une info.
Toujours
bravo, allez. Dans un instant, on continuera le vrai faux avec François Valéry. Il y aura également l'histoire vraie ou pas de Pierre Belmar. Et puis, on va chanter Mon Loup Vivant avec François Valéry. À tout de suite.
Cyril Hanouna.
Nous sommes sur Europe 1 dans les pieds dans le plat de 11h31. François Valéry, notre invité d'ailleurs. Dans un instant, on va écouter Emmanuel. Voilà, on a décidé de se faire plaisir et de vous faire plaisir sur Europe 1 aujourd'hui. Mais pour le moment, c'est l'histoire vraie ou pas de Pierre Belmar.
Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Belmar.
L'histoire vraie ou pas de Pierre Belmar, on écoute et François Valéry nous dira s'il pense que cette histoire est vraie ou pas. Bonjour.
En septembre 1993, à Brisbane...
Il n'y a pas de titre ?
Vous voulez que je redise le titre ? Je vous l'ai déjà dit.
Il vous parle mal.
Vous voulez encore que je vous répète
mais
le titre ?
Mais c'était il n'y a plus
vous
de
vous n'avez aucune mémoire.
Et Mon Loup Vivant.
C'est pas Et Mon Loup Vivant, c'est Des Noces Barbares.
Oh, pardon, ça va.
qui présente cette émission, je voudrais juste savoir.
Cette histoire s'intitule Des Noces Barbares.
Ah.
En septembre 1993, à Brisbane, en Australie, un jeune couple se disait oui pour la vie. Elle, amie, Amy Grec, d'origine allemande, lui, Chase, un Australien pure souche. Pour l'occasion, les tourtereaux avaient réuni leur famille autour d'un grand banquet. De nombreux proches de la jeune amie avaient fait le déplacement depuis l'Allemagne, au prix d'un voyage coûteux de plusieurs heures. Mais le jeu en valait la chandelle. Le dîner fut somptueux, et l'animation au rendez-vous. Toutefois, un événement vint gâcher la fête à la fin de la soirée. En Australie, il est de tradition que les nouveaux époux s'écrasent sur la figure une part de leur pièce montée.
Ah bon ?
Après que le dessert ait été accueilli sous les acclamations par l'assistance et présenté sur son chariot devant les mariés, Chaise, en bon enfant du pays, s'exécuta aussitôt en tartinant le visage de sa femme de crème de choux. Celle-ci resta d'abord bouche bée car personne ne l'avait mise au courant de la coutume populaire. Voyant sa robe tachée et son maquillage détruit, la jeune amie n'écouta que son instinct. Elle se saisit d'une bouteille de vin
et fracassa la tête du pauvre Chaise qui mourut sur le coup.
Mais non.
Sympa ce mariage. Hein.
Très sympa, c'est une fête formidable.
Ah oui.
Ah oui, moi j'aime bien ces fêtes là, gay, tout ça.
Je sais pas si c'est vrai, mais si jamais c'est faux, il faut vraiment avoir l'imagination détraquée pour imaginer.
On est bien
d'accord. Merci, merci, je m'en souviendrai.
Il y a un mot qui résume bien Pierre Bellemare, c'est détraqué.
Je m'en souviendrai aussi.
Franck Ferrand, merci en tout cas pour votre analyse. Donc vous pensez que cette histoire est vraie?
Ah, il faut qu'elle le soit, oui.
Il faut qu'elle le soit. Jean-Luc Lemoyne.
Non, je n'y crois pas, je crois pas que la Chaise soit morte.
Chaise, c'était le prénom du gars, merci.
J'ai rien compris alors.
Bien sûr. François Valéry.
Moi, je dis que c'est vrai. Moi.
Ah, il aime bien Pierre Bellemare en plus, François. Il peut pas l'imaginer en train de mentir.
Non, mais ça me paraît tellement énorme que.
Mais bizarrement, je trouve que pour une fois, il exagère dans la mort.
Mais oui.
Je pense que peut-être qu'elle lui est cassée, mais de là à ce qu'il meure juste sur un coup.
Moi, je pense que ça a dégénéré en bataille générale. Mais voilà. Dans tout le mariage, tout le monde a commencé à se battre.
C'est peut-être le père de la mariée.
C'est Dinorizzi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Écoutez, on saura dans un instant. Imaginez les pires choses. voilà, pendant le disque de François Valéry, on va écouter Emmanuel et juste après, on aura la révélation de Pierre Bellemare. On continuera le vrai faux sur François Valéry. On aura l'interview Les Pieds dans le Plat. Vous restez avec nous sur Europe 1. Il est 11h34, c'est Les Pieds dans le Plat avec toute l'équipe.
Certains soirs où l'on n'est pas bien dans sa peau, on va se chauffer au laser d'une disco, on va s'étourdir à coups de décibels, on va se glisser dans la ronde des belles. Assis devant mon whisky, moi j'ai vu deviner qui.
François Valéry, Emmanuel. Alors ça c'est un petit plaisir qu'on se faisait, mais le nouvel album, il sort le 7 avril. Ça s'appelle Je suis venu te dire et c'est vraiment un album de qualité. Je le disais, on va avoir la révélation de Pierre Bellemare dans un instant, mais je disais, il aurait pu choisir la facilité, hein, François Valéry, et faire un album de duo hein, avec tous ses titres, voilà, et reprendre tous ses titres, tous ses tubes.
Non, là on est dans la création.
Voilà, on est dans la création et bravo François,
merci,
bravo
merci.
Vraiment.
Je sais pas si ça va vous faire plaisir, mais cette semaine nous avons reçu Emmanuel Seigné.
Oui, j'ai écouté.
Voilà, qui a demandé à écouter Emmanuel.
Oui, j'ai écouté. Dans la famille Seigné, il n'y a que des pointures. Bah. Que ce soit Emmanuel, Marie, Émilie ou alors Mathilde Seigné, qu'on adore tous.
Et Louis.
Et alors, je voulais vous dire une chose. Elle a parlé de son clip avec Stéphane Sednaoui, qui est vraiment un top niveau. Et le clip qu'il lui a fait est remarquable. Ah bah, il faut le saluer. Voilà.
Eh bien, merci François. Allez, on va voir la révélation de Pierre Bellemare.
Alors, était-ce une histoire imaginaire ou une réalité? Cette chute épouvantable, on amène le gâteau, il prend une part du gâteau, il tartine sur la figure de sa femme. Enfin, oui, non, c'est épouvantable, c'est vrai, on comprend la réaction de cette femme qui prend une bouteille, qui ne se rend pas compte du geste qu'elle fait, car elle est, n'oublions pas, c'est une Allemande, hein, elle est très entraînée.
Le principe sur les Allemandes.
Une Allemande avec
une espèce de racisme ordinaire.
Pierre Bellemare.
Il est temps d'en faire.
Ressaisissez-vous, Pierre. Allez-y.
Eh bien, oui, c'était vrai.
Non.
Ben oui.
Ouf.
Vous voulez pas me tuer, bien sûr.
Ouf. Ça rassure Franck Ferrand.
Oui, j'avoue que je me sens tout de suite beaucoup mieux.
Ah oui, parce que là, il s'est dit je ne partirai pas seul avec Pierre Bellemare.
Non, mais vous imaginez la violence du coup pour tuer un homme.
Non, mais je vous dis, c'est pour ça.
Non,
c'est une Gretchen.
Elle est violente. Elle est violente. Allez, on va continuer le vrai faux sur François Valéry. Juste après, il y aura l'interview Les Pieds dans le Plat. Et j'espère voilà, que François Valéry nous accordera un duo avec toute l'équipe sur Aimons-nous vivants. Pour le moment, le vrai faux. François Valéry a écrit le prochain hymne de l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Brésil cet été. Vrai ou faux?
Non, je crois qu'il a fait quelque chose par contre pour l'équipe de rugby.
Exactement, bonne réponse hein, de Jean-Luc Lemoyne. Ça s'appelait Standing Ovation. C'était pour la Coupe du Monde de rugby de 2003 en Australie.
C'est exact.
Vous êtes fan de rugby?
Oui, j'aime beaucoup le sport en général, j'aime beaucoup le foot, mais j'aime beaucoup le sport, ouais.
Alors, Gilbert Bécaud lui a dédié une chanson, vrai ou faux? Gilbert
Bécaud.
Ouais.
Ça serait beau.
Ça serait joli, c'est une belle histoire.
Eh bien, c'est beau. C'était en 91.
C'est exact.
Lors d'un concert à l'Olympia, Gilbert Bécaud vous a dédié sa chanson Le Rideau Rouge.
C'est exact.
Ça doit être un moment inoubliable.
Oui, un grand moment. Gilbert faisait partie des gens que j'adorais, que j'aimais beaucoup. Et puis, j'étais le voir à l'Olympia un jour. Il aimait bien mes musiques de film, Gilbert. Ouais. Il aimait bien. Et je vais le voir et... Première fois, puis carrières qui sont considérables, quoi, parce qu'il y a tellement de tubes qui faisaient de spectacles, etc. Et Gilbert, il avait cette façon. Quand on venait le voir, il aimait bien qu'on vienne le voir dans la loge, mais pour que personne n'entende, on allait dans la salle de bain pour discuter, quoi. Et puis voilà, un soir, j'ai été le voir à l'Olympia, et il m'a dédié le Rideau Rouge.
C'est fort. Très
et
fort.
Et ça fait partie.
Je vous sens très très ému même maintenant.
Ouais, parce qu'il manque, quoi. Ah, il manque. Et puis il y avait du
risque. Je veux dire juste un petit mot, Omar. C'est vraiment. Je ne vois pas pourquoi on n'entend pas plus et plus souvent Gilbert Bécaud, où ça soit à la radio, ouais, dans des émissions consacrées aux variétés du passé. Je me pose la question.
C'est vrai que l'énergie, ça passe peu.
Ouais, et ben vous savez quoi, on va mettre un Gilbert Bécaud avant la fin de cette émission, on mettra Et maintenant.
Voilà. J'aimais bien, j'emmerdais bien parce que je lui disais ça va, boss. Arrête tes conneries. Ça va, boss. Arrête tes conneries.
Il taquinait tout le monde en France. Valéry. Alors, allez, celle-ci. François Valéry a représenté la France à l'Eurovision en 93. Vrai ou faux?
Non.
Ben, non, il a composé.
C'est lui qui a produit. Ah. Hein, Patrick Fiori.
Ah, oui. Mama Corsica.
Oui, exactement. Mama Corsica. Rappelez-vous. Mama Corsica. Patrick Fiori qui viendra nous voir d'ailleurs la semaine prochaine, hein, dans les pieds dans le plat.
Il a fini quatrième quand même.
Eh oui, c'est bon. Hein, c'est attendez, c'est un des meilleurs résultats.
C'est inespéré aujourd'hui.
Ah bah quatrième aujourd'hui, maintenant c'est en partant de la fin.
Hein. Oui, c'est ça.
Bah, ça c'est sûr. Hein, quatrième, c'est un beau résultat.
J'aurais pu gagner, Patrick.
Vous auriez aimé y participer à l'Eurovision, vous?
Non, moi je suis pas très concours.
Ah ouais, bon, bah, juste concours de boules, hein, vous, avec le mari de Nadie Cordy.
Dites pétanque.
Je suis exact.
On va dire pétanque. Merci François Valéry. Ne répondez pas, ne vous inquiétez pas. Allez, dans un instant, on aura l'interview Les Pieds dans le Plat et le duo François Valéry et toute l'équipe. À tout de suite sur Europe 1. Il est 11h45, on met Les Pieds dans le Plat aujourd'hui encore sur Europe 1 et on les met avec François Valéry qui est notre invité. Et François, depuis le début, on ne dit que du bien de vous. On est content que vous soyez là, mais là, ça va se corser puisque c'est l'interview Les Pieds dans le Plat. Trois questions, Franck Ferrand, Jean-Luc Lemoine. Et la terrible Valérie Bénaïm, celle que tout le monde redoute aujourd'hui dans le PAF.
La teigne.
Valérie Bénaïm, votre question.
Oui, alors vous avez côtoyé un nombre de stars impressionnants au cours de votre carrière. D'habitude, on demande toujours les bons souvenirs. Moi, j'aimerais savoir avec laquelle de ces stars vous avez eu la plus grosse altercation aux prises de bec. Parce que j'imagine qu'en 40 ans de carrière, même si vous êtes un homme extrêmement charmant et sympathique, il y a forcément des inimitiés.
Comment elle enrobe.
Je vais vous dire la vérité, Valérie. Moi, je suis, j'ai une chance formidable, c'est que j'aime pas me fâcher avec les gens. En général, c'est les gens qui peuvent pas m'encaisser, mais moi, je n'ai pas ce truc de méchanceté. C'est-à-dire que j'aime quand ça marche pour les gens. J'aime.
J'aime bon camarade.
Ouais, j'aime pas les gens qui sont malheureux. J'aime bien les réussites. J'aime bien les gens qui partent de rien, qui arrivent à force de leur travail et de leur truc. Donc. Dieu merci, j'ai eu une éducation grâce à ma maman, comme ça, parce qu'on a vécu, on fait des rapatriés d'Algérie, je sais ce que c'est que partir comme ça, avec une mère, avec ses enfants, avec les valises, avec le vrai cliché. Donc, j'ai pas...
Et si on vient vous chercher, vous restez quand même zen. Si on vient vous titiller, ça vous...
Non, moi, je vais vous dire, je suis quelqu'un qui adore l'humour, qui, plus ça va, a acquis maintenant une philosophie beaucoup plus sereine. Mais j'ai pas de j'ai pas de rancœur contre les gens. Je suis un bon mec, quoi. Mais quand j'aime. Par contre, j'ai beaucoup d'humour. J'adore rire et j'adore me foutre de moi. Mais par contre, il y a le talent de l'humour, c'est justement de pas empiéter sur le manque de respect.
C'est ça. Alors, vous verrez tout à l'heure, j'espère qu'il n'empiètera pas sur le manque de respect avec la question de Jean-Luc Lemoine. En tout cas, vous avez dit quelque chose qui nous touche. Vous aimez les gens qui partent de rien, donc vous devez nous adorer. Franck Ferrand.
Oui, mais qui sont arrivés déjà pas mal. Hein.
Franck Ferrand. Vous savez, on dit que les nouveaux convertis sont toujours les plus ailés. Moi, je m'intéresse un peu aux réseaux sociaux depuis quelques temps. Je suis allé voir un peu ce qui vous concerne. J'ai vu que vous aviez un compte Twitter, mais vous n'avez que 163 ou 164 abonnés. Ça vous intéresse pas vraiment?
Alors je vais vous dire une chose, j'ai un compte Facebook qui a été monté il y a pas longtemps. Alors il y a quelqu'un, je donne les instructions parce que je suis très nul en ski. Je sais,
il y a quelqu'un qui le fait en fait, c'est ça?
Non, mais c'est, par contre je regarde. Mm-hmm. Je regarde et je donne les... Mais vous dire que c'est moi qui le fais, je sais à peine envoyer un SMS. Mais par contre je suis l'histoire. Je suis vraiment l'histoire et je donne...
Mais on peut lancer un appel pour augmenter vos nombres de followers.
Ah bah oui. Vous voulez des followers?
Des followers.
Do you want some followers?
Cyril, faites un appel. Allez-y.
Voilà, je vous le dis, avant la fin de l'émission, je suis sûr que vous aurez. Il a combien?
164.
Je pense que vous serez à 500 avant la fin de l'émission. 500, ça vous, 500, c'est pour nous, c'est cadeau.
Marchand de tapis, 500, ça vous va.
Allez. Jean-Luc Lemoine, votre question, François Manuel.
Alors, François, vous avez déclaré de manière très honnête dans une interview, je ne fais plus crier les gamines de 18 ans, mais celles de 45 ans et plus, j'y arrive encore. Donc, j'aurais une question. Au début de votre carrière, vu votre succès, vous avez dû recevoir des petites culottes sur scène. Est-ce qu'aujourd'hui, de temps en temps, il vous arrive de recevoir des gaines?
Tu sais ce qu'elles te disent, les femmes de 45 ans?
D'abord, Jean-Luc, j'ai pas dit ça comme ça. Parce que... Non, il est évident que, bon, vous savez, nous avons tous été beaux comme on a eu 20 ans. Hein, d'accord? Bon, c'est sûr que j'avais, quand j'ai démarré ma carrière et pendant quelques années, j'avais un public qui était plutôt un peu...
Vous avez toujours été, et vous êtes toujours un séducteur.
Il est sympa, le
mais non, mais c'est vrai, il faut non, dire non, la vérité.
Je veux dire qu'il faut se reconnaître, je ne veux pas jouer les minés. J'ai mon âge, le public m'a connu à 20 ans, à 30 ans, à 40, à un peu plus de 50, bientôt à 60, après. Bon, mais je veux dire, ça m'étonnerait que j'ai dit une connerie comme ça. Ah, c'est bon. Vrai que ma carrière a été basée au départ sur le...
C'est flatteur.
Sur les fans, oui.
C'était plutôt un compliment.
Moi, je suis resté là, mais j'ai écouté. Bon, François, voilà, très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions de Franck Ferrand, de Jean-Luc Lemoine et de Valérie Benahim. Vous avez une question, Pierre Belmar?
Non,
merci,
non,
Pierre Belmar.
Je suis dans l'admiration.
Allez, on s'écoute. Est-ce qu'on peut s'écouter alors? Je ne sais même pas si on écoute ce qu'on a changé. Ah, bah, ils ont mis Gilbert Bécaud et maintenant, bravo à l'équipe. Ouais. Bravo à l'équipe en
réagit vite. Hein.
Bravo, Philippe. Voilà, c'est le meilleur. Hein. C'est pour ça qu'il travaille avec nous dans Les Pieds dans le Plat. On s'était dit qu'on voulait écouter Gilbert Bécaud, c'est sur Europe 1.
C'est en plus de ça une des plus belles chansons, Gilbert.
Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffère maintenant que tu es parti? Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort.
Gilbert Bécaud est maintenant sur Europe 1. Gilbert Bécaud qui avait dédié une chanson à François Valéry qui est notre invité aujourd'hui sur Europe 1. Je suis venu te dire, l'album est prévu le 7 avril, donc lundi prochain. Dans cet album, on retrouvera que des nouvelles chansons, donc il n'y aura pas « Aimons-nous vivants ». C'est une des chansons préférées de l'équipe, ah François ouais. Valéry.
Par contre, Cyril, je vais vous dire un truc.
Oui, dites-moi.
Cette année, ça va être les 25 ans de « Aimons-nous vivants » et je pense qu'au mois de septembre, je vais ressortir l'album « Aimons-nous vivants » parce qu'entre vous et l'ami Arthur, vous en avez fait un hymne.
C'est vrai.
Donc c'est vrai que c'est très utilisé dans « Vendredi, tout est permis ».
Ah oui, mais c'est vrai que nous, il faut rendre quand même à César ce qui est à César. C'est d'abord Jean-Luc Lemoine, hein, qui s'en est beaucoup servi avec Bertrand Chamerois.
C'est vrai.
Dans « Touche pas à mon poste ».
Complètement.
Voilà, donc
c'est vous. Moi, j'adore. Je suis fan premier degré à mort.
Voilà. Alors, allez, j'aimerais qu'on fasse un duo, François Valéry, en live, ici même, sur Europe 1, Aimons-nous vivants. Est-ce que vous vous sentez prêt à chanter? Parce que, attention, hein, François Valéry, je peux vous dire, chanter du François Valéry, c'est très très dur.
Ah ouais.
Qui se sent de le faire dans l'équipe avec
vous, Cyril, vous qui chantez à tout
surtout face au chanteur original, impossible.
Allez, musique.
Comme une envie de dire je t'aime quand on est au bout de soi-même.
quand il n'y a plus aucune raison de le cacher.
Comme une envie de rêver tout haut, te dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger.
Et ce soir, je veux briser les ponts du silence,
franchir le mur du son, le temps d'une chanson, et le monde vivant.
N'attendons pas que la mort nous trouve du talent.
Talent, talent.
Et mon dos vivant. S'il faut danser, je veux danser maintenant.
Oui, maintenant.
Et mon dos vivant.
À vous, Cyril.
Mon dos. Faisons la paix, faisons l'amour entre nous. Aimons-nous surtout pour ne plus jamais, jamais vivre à genoux.
À genoux.
Aimons-nous vivants. Merci François Rallet. Oh oh.
Alors,
il envoie du lourd à toi maintenant.
Je ne voudrais pas dire, mais ouais. Un, c'est super dur à chanter. Et entre les deux chanteurs, j'ai vu une petite différence.
Eh ben moi, je me dis que j'ai bien fait de venir.
Il s'est bien défendu. C'est pas, elle n'est pas évidente.
Ah non, elle est dure.
Non, il s'est,
vous avez
bien
vu le plaisir qu'il a pris. Vous lui avez fait un cadeau, là, comme à un enfant.
Ouais, mais
merci.
C'est...
Merci, François Valéry. C'est vrai que là, celle-ci, ouais. Je vais la garder dans les archives. Hein. les pieds dans le plafond.
Ce qui est le plus étonnant, je trouve, dans tout ça, vous avez très, très bien accompagné François Valéry. Parce que ça, c'est vrai. Parce que vous pouvez avoir le sens du rythme, mais vous l'avez.
Merci.
Mais ce que je trouve formidable avec Valéry, c'est que. En fait, il n'a pas le physique de sa voix.
Ah bon,
ah oui, quand vous imaginez que vous ne savez pas qui c'est.
Vous allez me faire un peu pire, là.
Non, attendez. Imaginez que vous ne savez pas qui c'est. Oui, vous ne pouvez pas deviner qui va sortir de ce corps ce que vous entendez.
On perd Pierre
Belmar. Parce que c'est extraordinaire. Non, parce qu'il a une voix formidable.
Vous restez avec nous, Pierre Belmar.
Il a le corps d'une voix de canard.
Alors, François Valéry, reste avec nous.
Je suis énorme.
Vous restez avec nous jusqu'à 12h30. Dans quelques minutes, il y aura l'histoire vraie ou pas de Pierre Belmar. Il y aura la bataille des scoops.
Pavarotti sort de ton corps.
Sur François Valéry, restez avec nous sur Europe 1. Tout de suite. Les pieds dans la scène, bien sûr, sur Europe 1. François Valéry reste avec nous jusqu'à 10h30. Il y a la bataille des scoops qui arrive dans un instant. Il y a bien sûr aussi l'histoire de Pierre Belmar. Mais pour le moment, il est midi. Ne serait-il pas le moment de faire un petit point sur l'actualité, Pierre de Villeneuve ?
Passation de pouvoir à Bercy, Cyril, nous partagerons toutes les décisions, nous parlerons d'une seule voix, dit Michel Sapin. Arnaud Montebourg précise, nous serons des militants de la croissance, le nous, référence bien sûr au duo qu'ils forment désormais, des déclarations destinées à apaiser les rumeurs de mésentente entre les deux hommes. Pierre Moscovici quitte son ministère sans amertume, dit-il, pour un destin sans doute européen. Nous verrons tout cela dans le journal de midi 30. Information Europe 1 dès ce matin, Ségolène Royal quittera la présidence de la région Poitou-Charentes avant l'été. Elle se range sur la ligne instaurée par François Hollande dès sa prise de fonction en 2012, consacrée tout son temps aux tâches ministérielles. Nous entendrons également Pascal Lamy, l'ancien patron de l'OMC, qui pense que plutôt que de toucher le chômage, il vaut mieux faire un petit boulot, même si c'est moins que le SMIC. Et Wendy Bouchard développera ce sujet dans Europe Midi. Nous irons à Colmar où le violeur en série Philippe Tolia est à nouveau devant la justice après avoir récidivé après sa libération conditionnelle. Il en est accusé en tout cas. Et puis nous reviendrons sur le match du PSG contre Chelsea. Une rencontre qui a démontré que les Parisiens excellaient même sans Zlatan, Cyril.
Merci Pierre de Villeneuve. Les pieds dans le plat continuent sur Europe 1. Il est midi 1. Franck Ferrand est avec nous. Aujourd'hui il fait exceptionnellement partie de l'équipe, Franck, et c'est un plaisir pour nous de l'avoir. Bien sûr, on le retrouvera tout à l'heure sur Europe 1 avec des révélations exclusives sur
Gandhi. Oui, tout à fait.
Il y a Jean-Luc Lemoine qui est avec nous.
Bonjour.
Il y a Valérie Benaïm.
Bonjour.
Il y a Pierre Belmar. Et il y a notre invité François Valéry qui est avec nous. Merci François encore d'être là. Votre album, il sort le 7 avril. On va en reparler encore dans cette émission. Il y aura la bataille des scoops vous concernant dans un instant. Mais à midi 2, on joue avec Pierre Belmar et son histoire.
Europe 1, les pieds dans le plat.
L'histoire vraie ou pas ? de Pierre Bellemare.
L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare avec Valérie Benaïm qui va nous rappeler le cadeau. Merci Valérie.
Oui, car si on arrive à décerner le vrai du faux dans l'histoire de Pierre, il y aura à la clé une semaine en vacances à 6 sur les canaux et les rivières de France à bord d'un bateau de location de la compagnie Le Boat. Les bateaux Le Boat, je rappelle, se conduisent extrêmement facilement. Ils se conduisent sans permis.
Avec un doigt.
Mais c'est ça, exactement. Et en plus, figurez-vous qu'ils sont très confortables car ils sont tout équipés avec une terrasse pour les repas à l'extérieur, 2 à 3 cabines avec salle de bain. Bref, il y a 26 bases de départ en France et tout cela est à découvrir sur www.leboat.fr. Voilà.
Le boat qui veut dire bien sûr en français l'étang. Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane, merci.
Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe. Bonjour Stéphane.
Bonjour. Merci d'être là Stéphane. Vous faites quoi dans la vie ?
Alors, je suis vendeur et je vends des produits de bricolage, au niveau du jardin.
Du jardin, alors, vous tombez bien, parce que j'en parlais hier avec Julie d'Europe 1, avec qui on s'entend très bien, la cantoche, et elle me disait que si on plante des gousses d'ail au pied des rosiers, ça évite les pucerons et les taches noires. Elle a raison ou pas?
C'est pas vraiment trop mon domaine, en fait.
D'accord.
Moi, je m'occupe plus de tout ce qui est portail, terrasse. Je poserai la question à mes collègues de la serre. Hein. C'est vrai que c'est une super question, Cyril. Hein.
Non, mais c'est bien.
Vous avez la main verte, Cyril, vous.
J'ai la main verte et bientôt, je vais avoir la main dans ma gueule aussi. On peut faire des bêtises, bien sûr. Vous habitez Sorgues, hein, c'est dans le Vaucluse, ça.
Oui, c'est ça. C'est
magnifique.
Bien ça.
Oui. Comment on appelle les habitants de Sorgues?
Les Sorguais.
Les sorbets. J'ai l'impression que vous n'êtes
inventez,
pas.
Vous inventez en fait. Vous n'habitez pas du tout là. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous habitez.
Non, mais j'adore Stéphane. Les sorbets. Sorbet citron, sorbet framboise. Voilà. Merci. Allez, on joue avec Pierre Bellemare. C'est parti.
C'est parti.
Le gangster écolo. C'est à une étonnante série de braquages qu'est confrontée la petite ville de Paulna, qui se trouve, comme chacun sait, dans l'Illinois. Plusieurs banques ont été attaquées par un homme seul, armé et cagoulé. Jusque-là, rien d'original. Mais le malfaiteur présente la particularité d'arriver en vélo, de garer son engin contre la façade de la banque et de repartir de la même manière avec son butin. Plus fort encore, lors de la dernière agression, les employés de l'établissement attaqués ont pu prévenir rapidement la police. Celle-ci a opéré le bouclage de la ville, arrêtant notamment tous les cyclistes. Mais pas un seul n'était le bon. L'homme semble s'être purement et simplement volatilisé. Du coup, la presse s'empare de l'affaire. La police est l'objet de toutes les critiques. Au contraire, le malfaiteur, que les journaux appellent tantôt le braqueur en vélo, tantôt le gangster écolo, bénéficie d'une incontestable sympathie. Aussi, lorsque l'agent motocycliste Richard Lewis reçoit un appel annonçant que le malfaiteur vient de commettre une nouvelle agression, il a tout lieu d'être satisfait. L'adresse indiquée est à côté de l'endroit où il se trouve, et cette fois, l'individu ne s'en sortira pas. Arrivé presque immédiatement sur les lieux, le policier aperçoit l'homme qui saute sur sa bicyclette et s'enfuit. Étant à moto, il lui serait facile de lui mettre la main au collet, mais il préfère le suivre discrètement et à distance pour arrêter d'éventuels complices. Et c'est ainsi qu'il découvre comment le braqueur, à vélo, avait échappé jusque-là à toutes les recherches. Dans une rue adjacente, une voiture est garée.
Hein ?
L'homme pile devant elle, ouvre prestement le coffre, y dépose son vélo, puis s'installe aux côtés du conducteur qui démarre aussitôt. Ce dernier, ou plutôt cette dernière, n'est autre que sa propre femme, tandis que les deux enfants, en bas âge, sont sagement assis sur la banquette arrière.
Pas mal.
Voilà comment cette famille, en apparence si paisible, avait pu passer sans problème tous les barrages.
C'est pas fini.
C'était pas fini, mais c'est pas grave. Le couple a été arrêté et les enfants ont été confiés aux grands-parents.
Oh là, belle histoire.
Astucieux, astucieux.
Belle histoire, et je vais vous lire. Ça me rappelle également un Colombo, je vous jure que c'est vrai, où il y avait un meurtrier qui était venu en voiture avec son frère et qui avait caché un vélo dans le coffre de sa voiture et qui est reparti en vélo.
C'est vrai ?
Voilà, oui, bah oui, je vous le dis. Non,
mais là, c'est la vérité. Là,
c'est la vérité.
Mais oui, bien sûr.
Vous dites que c'est la vérité, on ne sait pas. Alors,
ah, bah vous faites comme vous voulez.
Mouais.
Mouais. Alors,
en ce qui concerne le vélo.
J'y crois pas trop, moi. C'est vrai que c'est astucieux, mais je sais pas, ça me paraît un peu trop.
Et je sens
c'est trop bien huilé, cette histoire.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord, elle est huilée. Jean-Luc Lemoyne.
j'y crois complètement parce que on a entendu parler des braquages à la voiture Bélier. J'ai vu un braquage au vélo Bélier. Oui. Le mec est mort.
François Valéry, je suis sûr qu'il y croit parce qu'il croit en Pierre Bellemare hein, depuis le début.
Celle-là, non.
Merci. Merci. Je vois que vous connaissez mieux Pierre Bellemare alors parce que vous le côtoyez depuis maintenant presque deux heures. Valérie Bélier.
Ah non, j'ai envie de croire à cette entourloupe. C'est plutôt malin.
Cette entourloupette.
Oui, cette entourloupette.
Stéphane qui joue avec nous. Là, c'est important pour vous, Stéphane. Hein, vous jouez.
Ah oui, très important.
Pour
alors,
partir
pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, pour un vélo, c'est bien que ce soit huilé.
Oui, bah oui, bah oui, c'est important.
Et j'y crois aussi. Hein.
Vous y croyez ? Allez, oui. Stéphane, on dit que vous y croyez. Vous ne suivez pas donc Franck Ferrand ni François Valéry. Hein. On aura la réponse de Pierre Bellemare dans un instant. On aura la bataille des scoops également sur François Valéry. Et on s'écoutera avant 12h30. Elle danse, Marie, elle danse. A tout de suite sur Europe 1.
Les pieds dans le plat sur Europe 1.
Europe 1. 10h30, 12h30, les pieds dans le plat.
Cyril Hanouna.
Nous sommes sur Europe 1 dans les pieds dans le plat. Et nous attendons la révélation de Pierre Bellemare, surtout Stéphane qui habite Sorgues dans le Vaucluse. Alors est-ce que cette histoire était vraie ou pas? Stéphane pense qu'elle est vraie.
Eh bien, je vais vous répondre, Stéphane.
Alors?
Vous rêvez sans doute de faire une promenade en bateau sur les rivières et les canaux de France.
Oui.
Je l'ai fait moi-même à bord de ces bateaux qui sont tout à fait remarquables et c'est très confortable, c'est tout à fait vrai et c'est très agréable. Voilà.
D'accord.
Alors, bah, alors
Stéphane, il est d'accord.
Il a la réponse là.
Oui, bah, maintenant la réponse arrive. Forcément, je l'ai fait rêver un peu. Bon. Et il va rêver davantage d'ailleurs parce que tout est vrai et vous avez raison.
Bravo
et
Stéphane.
C'est pour vous Stéphane la semaine.
C'est vraiment bien, vous êtes un super compère d'histoire, je vous adore.
Stéphane, ça sera, c'est donc pour vous la semaine en vacances à 6 hein, sur les canaux et les rivières de France à bord du fameux bateau donc qu'a testé Pierre Bellemare de la compagnie Le Boat. Voilà, c'est pour vous.
Merci.
Merci beaucoup vraiment Cyril, vous êtes super, je vous adore.
Merci Stéphane.
Merci à tous. Vraiment,
merci Stéphane. Et envoyez-nous des petites photos, d'accord? Vous les mettez sur le compte Facebook de l'émission. D'accord?
Eh ben avec plaisir.
Voilà, quand vous serez sur le boat. Je vous embrasse. Au revoir Stéphane.
Merci beaucoup.
Bon boat. Allez, tout de suite, c'est la bataille des scoops avec Franck Ferrand, avec Jean-Luc Lemoine, avec Valérie Benahim. Et c'est sur notre invité du jour, François Valéry. On va démarrer avec Valérie Benahim et Franck Ferrand terminera. Franck Ferrand qui raconte tellement bien les histoires, même s'il raconte un scoop un petit peu en dessous, je pense qu'il aura des faveurs de Pierre Bellemare.
Ce qui est terrible, c'est un peu vexant, c'est on commence par Valérie Benahim, le charme, on finit par Franck Ferrand parce qu'il est bon. Et moi au milieu, je fais quoi là?
Eh ben, vous savez, quand vous êtes sur un chemin, vous êtes parfois obligé de passer par des ronds-points que vous n'avez pas envie de croiser.
Oh non, vous faites pleurer.
Allez-y, Valérie Benahim.
Alors, François Valéry, vous êtes un romantique. Le texte de vos chansons le prouve, mais votre parcours également, puisque votre tout premier groupe de musique, vous l'aviez créé pour séduire une fille. Nous sommes en 1971, vous avez alors 17 ans et c'est la grande époque des booms. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, les booms, c'est un peu un mix entre les goûters d'anniversaire et les boîtes de nuit.
Non mais tout le monde a vu la boom, ça va, calme-toi.
Donc c'est un grand écart qui en faisait l'Eldorado de la drague quand on était môme. Et vous François Valéry, vous ne vous en êtes pas privé puisque c'est là donc dans une boom que vous avez rencontré ce premier amour, Elisabeth. Et pour séduire Elisabeth, vous avez créé ce premier groupe de musique avec 5 amis. Vous étiez le batteur et le chanteur. Et ce groupe, vous l'avez gardé tout de même 8 mois. Vous faisiez les bals populaires, les petites salles de fête pour y chanter du Johnny ou du Claude François. Et on a la preuve qu'il était dédié à votre amour de l'époque, Elisabeth, puisque le groupe s'appelait Nord Express 57. Et Nord Express 57, qu'est-ce que c'est? C'est le nom du train que vous preniez pour aller la voir en Moselle. C'est joli, hein? Pas mal.
Je suis halluciné.
Pour quelle raison?
Parce que, comment vous savez ça?
Bon, travail.
Je savais que vous travailliez.
Je vais vous dire pourquoi c'est ça. Puisque, regardez, Fantomas, c'était Elisabeth.
Et bravo aux équipes qui nous
aident. Mais surtout, maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que ça a servi à quelque chose?
Est-ce que ça s'est concrétisé avec Elisabeth?
Est-ce qu'Elisabeth, enfin, l'histoire a eu une fin heureuse?
Oui, parce qu'en tout état de cause, vous savez, la résultante du grand amour, ça se termine par une immense tendresse et une immense affection.
Bon, allez, maintenant, vraiment. Il y a eu quelque chose avec cette Elisabeth ou pas? C'est on veut des réponses.
C'est un premier amour.
Un amour de jeunesse.
Bon, très bien. Bah, je vais vous dire, un amour de jeunesse. On n'a pas
mais
eu tous la chance
souvenirs
de l'avoir. Oui, merci, c'est bon. Allez. On doit donc passer, on va d'un point A, donc Benahim, à un point B. Donc, Franck Ferrand, on doit maintenant passer par le point noir. Jean-Luc Lemoine.
Allez. Le point noir, il va te péter la gueule. Alors, François, on vous connaît en tant que chanteur, mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aussi compositeur et vous avez fait surtout beaucoup de musique de films, avec beaucoup de talent, puisqu'il y a même une citation sur vous de Julia Migenes Johnson, chanteuse et actrice américaine très populaire des années 80, qui avait joué Carmen, entre autres, et qui avait déclaré à l'époque au JT TF1 pour les musiques de films, les Américains ont Quincy Jones et Lionel Richie, vous, vous avez François Valéry.
Wow.
Ça, c'est quand même un compliment phénoménal.
Ouais, enfin, moi, je pense soit elle était bourrée ou alors elle est amoureuse.
Pourquoi
c'est... Non, prenez de toute façon. Non,
ça me touche beaucoup, mais enfin, c'est un compliment qui est tellement considérable que mon avis était saoul.
Mais il faut le prendre.
Non, non. Prendre.
Pas au journal de TF1.
Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs formidables avec elle. Sur ce film, j'ai des anecdotes avec elle qui sont... La première fois qu'elle... Je peux parler 3 secondes?
Bien sûr.
La première fois que je l'ai vue, elle venait en studio, elle est arrivée avec 5 gardes du corps parce qu'elle sortait de Carmen de Francesco Rossi. Enfin,
bien sûr.
Et puis moi j'étais assez rock'n'roll aussi à l'époque. Et elle arrive en studio, et bon, tout était préparé, les partitions, il y avait une espèce de gospel que j'avais fait pour elle, etc. Puis elle rentre, elle dit bonjour à personne, elle arrive, elle chante. Oh là là, là, c'était like a broken. Enfin, un truc. Et elle ouvre la porte du studio, elle me dit alors ? J'ai dit madame, vous chantez bien, mais vous n'avez aucune émotion.
Non.
Et c'est ce qu'elle, a répondu ? Je le veux.
Formidable.
C'est beau ça.
Ça c'est excellent.
Et le rond-point, il y avait encore un tour.
Oui. Alors, en fait,
parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que votre première musique de film, en fait, c'était pour un film érotique. En 1983, pour le film Joy, qui porte bien son nom puisque ça veut dire joie en français. Et ce film avait l'air de beaucoup vous inspirer puisqu'il paraît que vous avez composé le thème du film en quelques minutes seulement. Et ça ne s'arrête pas là, puisque l'année suivante, vous avez écrit la musique de la suite du film avec Brigitte Lahaie, Joy et Joanne.
Vous voulez une petite explication?
Est-ce que vous voulez écouter la musique?
Oui. Ah bah oui.
Oui.
Un petit retour.
Ah oui.
Ah bah oui, tout de suite, là on est.
Effectivement. Effectivement, là on y est.
À mon avis, ça doit faire partie de la discothèque de Jean-Michel Maire.
Oui, c'est ça.
Très possible, François Valéry.
On adore.
Excusez-moi, je vous ai coupé, vous aviez une...
Allez-y.
Oui, je rêvais de faire de la musique de film. Et puis, j'avais un copain qui s'appelle Jean-Pierre Imbroris, qui avait écrit ce bouquin-là. Il dit, j'aimerais bien que tu fasses la musique, etc. Bon, et j'ai fait la musique, le thème de Joy sur le bouquin. Alors, j'ai voulu lui donner une... Bon, c'est l'histoire d'une fille qui est un peu légère, etc. J'ai voulu lui donner un côté un peu... un peu sentimental.
Oui.
Mais après, ce qui a été drôle, c'était avec ma mère, quoi. Parce que comment je dis à ma mère que je fais, je me suis insulté quand même, pas au départ. Mais après, je dis comment je dis à ma mère. Je dis non, c'est un film d'aventure, maman. Puis après, mon film. Mais cette musique a fait le tour du monde, Cyril.
Non, mais c'est bon.
Cette musique, le film qui était naze.
Ouais. Mais la musique a fait le tour du monde.
Il y a eu 25 millions d'entrées avec ce film.
Ouais. Fort.
Ouais.
Alors, on va enchaîner avec le troisième couple par celui qui a composé Orgasme sur le Danube.
Je vous avais demandé de ne pas
Franck
le dire.
Franck Ferrand. Allez-y, donc Franck, votre scoop.
Vous êtes bien placé pour savoir, François Valéry, qu'être star n'est pas facile tous les jours. Alors, on est dans les années 1980, vous passez votre temps sur les routes, vous êtes dans des tournées permanentes, vous donnez des concerts partout, et pas seulement en France, puisque ce jour-là, vous êtes sur la route pour aller faire un gala en Belgique. Et vous arrivez au poste de douane, parce qu'à l'époque, il y avait des frontières entre les pays d'Europe, et vous tombez sur un douanier... Or, ça ne s'invente pas, ça, quand même. Le douanier, oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Oui, le douanier était complètement schlasse.
Ah oui.
Et heureusement, chance pour vous, il vous adore, lui aussi. Et alors, vous vous dites, bon, mais ça va peut-être bien se passer. Il dit, non, mais il me faudrait, je veux absolument un disque, donnez-moi un disque. Alors, vous regardez un peu, mais vous n'avez pas de disque sur vous, vous ne pouvez pas le satisfaire. Et le type devient tellement pressant que finalement, vous êtes obligé de forcer le barrage douanier. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre la Belgique et la France, mais il paraît que vous avez toujours quelques vinyles avec vous pour passer.
Oui, c'est vrai. C'est une... À l'époque, on allait faire une émission. Alors, d'abord, il faut saluer les Belges, hein, qui sont un public formidable et qu'on aime beaucoup. C'était une époque où, régulièrement, on allait faire une émission qui s'appelait Chansons à la carte,
oui,
en Belgique. Et comme on sortait des singles tous les 3 mois, on y était tout le temps. Et puis, effectivement, donc, on arrive à la frontière et... baisse le truc et le... Et il me dit, François Valéry, est-ce que je pourrais avoir un disque? Alors, on était deux dans la voiture, et mon attaché de presse, qui était un peu folle, quoi. Et il lui dit, on dirait la petite sœur de Fernand Reynaud. Qu'est-ce que t'es, celui-là?
Bon. Non.
Mais moi, au départ, quand je le vois, je dis, c'est pour moi. Il est bourré, il est douanier, il est sympa, on va rigoler.
C'est magnifique.
Et puis, bon... Et puis il insiste, un de disque, hein, parce que je dis, bon, vous avez des disques derrière? Non, non, bon, genre, dans le coffre, il n'y en a pas. Bon. Je dis, vous voulez pas une photo? Une adresse? Bon, puis c'est que ça dure, quoi. Ça dure!
Non, c'est magnifique.
C'est-à-dire, au départ, tu ris parce que c'est un client magnifique, tu as envie de rire.
Mais à la fin?
Sauf que là, au bout de 20 minutes. Ouais. Ça durait 20 minutes. Bon, ouais. Parce qu'au début, tu te marres.
Et finalement,
c'était François Damien.
Et puis à un moment donné, bon, je retourne dans le coffre. Et j'ai une espèce de relent un peu orangien. Je lui dis, le comte de Tarras, j'ai pas de disque. Il m'a dit, ma salle au tarif. Enfin, j'ai dit, allez, c'est bon, allez. Mais j'ai pris la bagnole et je suis parti.
Non, ça. Ah ouais.
Et je lui aurais donné de bon cœur.
Eh bien, il est avec nous aujourd'hui. Il est là, il veut son disque. Oui, Pierre Belmar, qui avait le meilleur scoop, la meilleure.
Ah, je crois quand même là que. Je vais travailler au centre, vous voyez.
Jean-Luc Lemoyne.
Le point noir.
Et c'est mérité pour le point noir. Jean-Luc Lemoyne qui gagne la bataille des scoops. Allez, on passe tout de suite au mot de la fin.
Europe 1, les pieds dans le plat.
Le mot de la fin.
Le mot de la fin. Alors, en 1984, vous cartonnez avec le titre « Mon pote le DJ ». Est-ce qu'on a un extrait de « Mon pote le DJ » ?
Mon pote le DJ. Celle qui vient d'Amérique, mon pote le DJ, il est sympa comme tout.
Et vous revenez en 2014 avec votre dernier single, Nos DJ font danser le monde.
Et nos DJ font danser le monde.
Ma question, pourquoi la personne chargée d'animer les soirées dansantes s'appelle un disc jockey? Alors, est-ce que vous avez la réponse ici, Valérie Bénaïm?
Eh ben, en fait, le premier disc jockey, le premier DJ, c'était en fait un vrai jockey. C'était sa passion, le type.
Il était à cheval
et il avait une passion annexe qui était la musique, mais il ne pouvait pas en vivre évidemment. Et puis, est arrivé un jour, on est à peu près en 1953, ouais. Et il remporte un grand prix. Ce grand prix fait sa fortune à ce type. Du coup, il achète une boîte de nuit. Il devient le premier homme vraiment célèbre, parce qu'il était connu, vraiment célèbre à faire danser les foules. Et du coup, on a accolé au mot disque son premier métier, disque jockey. Et évidemment,
on aurait
après.
Pu dire disque menuisier s'il avait été le
par
menuisier.
Exemple. Et là, le nom générique est, de, voilà, le nom est devenu un nom générique normal, pour tous entendu. Ceux qui font ouais, danser les ça. Foules. C'est
bien
aussi simple que ça.
Entendu. Vous aussi, votre nom va devenir un générique. Parce qu'on va vous entendre qu'au générique, en fait, ici. Et après, on vous entendra plus de l'émission.
Générique de fin, surtout.
Oui, c'est ça. Franck Ferrand, est-ce que vous avez une idée?
Non, ça doit être un bizutage parce que j'ai pas, en tout cas, on m'a pas donné de version.
Personne. Parce que vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui écrivent ce qu'on fait.
Moi, ma version, a priori, c'est qu'un jockey, par définition, c'est quelqu'un qui dirige, qui lead, qui mène.
C'est ça.
Donc un disc jockey, ben, c'est celui qui gère les disques, quoi, tout simplement, comme on dirait d'un
c'est
jockey.
C'est pas mal. Tout ça, c'est pas mal. Tout ce que j'entends, c'est pas mal. Je vous le dis. Pierre Belmar.
Alors,
même
il
vous.
Faut signaler que. Il y avait plusieurs platines devant un disque jockey. Il ouais. y a plusieurs platines et il agit sur ces platines pour, en fait, créer une sorte de musique
bah oui.
avec ces différents... Oui, non, mais c'est... Bah, ça paraît évident aujourd'hui. Au démarrage, ça ne l'est pas du tout. Et ça ressemblait d'ailleurs un petit peu à ce que nous faisions à la radio, car à l'époque, on n'avait que des disques et c'était un petit peu la même chose. Bon. Et donc, cette habileté, c'est quand même diriger un attelage, en quelque sorte. Bon, faut pas se tromper. Bien. Et c'est pourquoi cet homme qui est si adroit sur ces disques était le jockey en quelque sorte de ces disques.
D'accord.
Nous, le disque jockey.
Vous êtes celui qui est le plus loin.
Oui, mais quand même, ma version est bonne.
Mais je vous aime bien quand même. Jean-Luc Lemoyne.
Il y a trois raisons en fait. Simplement, il faut savoir que le disc jockey était dans une cabine dans les boîtes de nuit et les cabines étaient assez réduites, donc il fallait des gens de petite taille, comme pour les jockeys, les jockeys qui font le tiercé par exemple. Il faut savoir aussi qu'il faisait enchaîner des disques, donc il faisait chevaucher des disques.
Mmh.
Et quand une soirée était réussie, il fallait que les gens se montent dessus. Et voilà. Et donc, tout ça... C'était la voilà. preuve. Si voilà. les gens se montaient voilà. dessus, voilà. Ah, voilà.
Un bon
disque jockey.
Il faudrait peut-être mieux que ce soit écrit.
Oui. Alors attention, je vais vous donner la bonne réponse. Et sachez que celui qui s'en rapproche le plus, j'ai menti, c'est bien Pierre Belmar. Ça vient du verbe anglais « to jockey ». Qui signifie bien sûr, comme tout le monde le sait, jockey, jockey,
vous êtes sûr.
C'est un verbe régulier, qui signifie manœuvrer de manière à influencer. Dans le milieu équestre, on utilisait le terme jockey pour qualifier la personne qui arrivait à bien manœuvrer son cheval de manière à gagner la course.
Mm-hmm.
Petit à petit, le terme de jockey a commencé à être utilisé dans les balles pour qualifier la personne qui cherchait à influencer les goûts de la foule en diffusant ses disques à répétition. Les termes jockey et disque ont fusionné hein, pour devenir disc jockey, autrement dit, l'homme qui influence les modes par le biais de ses choix
musicaux. Mais le premier,
musicaux,
c'était un jockey.
C'est Pierre hein, qui s'en rapproche. Ouais. C'est Pierre.
Excusez-moi, en quoi il se rapproche?
Il se rapproche, il est pas tout près, mais il est pas tout loin.
Il menait ses musiques, parce qu'il est créé, enfin, c'est un créateur, le disc jockey.
Voilà, ça c'est Pierre Bellemare, ça j'aime bien. Vous voyez, il rebondit là.
Non, mais c'est vrai, c'est un créateur.
Merci en tout cas François Valéry d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Et on remercie les Twittos hein, qui ont suivi François Valéry, parce qu'ils sont plus de 600.
On est à combien?
On est à plus de 600.
Bravo.
Plus de 600 hein, followers sur Twittos. Sur Twitter, on est à 167. Hein,
ouais, super.
Au départ. Demain, Patricia Cass sera avec nous. Je rappelle la sortie de l'album le 7 avril. Je suis venu te dire l'album de François Valéry. Et sachez que demain sur Europe 1, à l'occasion des 20 ans du SIDA Action, nous organisons une nuit spéciale de Libre Antenne pour continuer à agir contre le SIDA. Et ce sera la nuit sortez couvert. N'hésitez pas à faire un don, vous pouvez le faire. Dès maintenant, au 110, numéro d'appel gratuit. Merci à Franck Ferrand.
Mais j'ai passé un excellent moment.
Merci. Ben nous aussi, on vous retrouve bien sûr à 14h sur Europe 1. Et il y aura des révélations sur Gandhi. Émission encore très intéressante. On sait que vous faites un carton tous les débuts d'après-midi et c'est mérité. Franck Ferrand, merci d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve ce soir à 18h30 sur D8 en direct. On aura Brigitte Lahaye avec nous. On parlera moins de Gandhi. À tout de suite avec Wendy Bouchard qui prend le relais.
Cher Cyril.